Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.
Donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à mai-juin 1968, autour d'un livre, celui de Ludivine Bantini, paru aux éditions du Seuil en 2018, et qui s'intitule 1968, de grand soir en petit matin. Et pour cette émission, nous sommes donc avec l'autrice de cet ouvrage, qui est historienne à l'université de Rouen, et qui a également écrit, et en l'occurrence co-dirigé, un autre ouvrage sur ce sujet qui s'appelle « Prolétaires de tous les pays qui lavent vos chaussettes, le genre de l'engagement dans les années 1968 », donc avec également Fanny Bunion et Fanny Gallo comme co-directrice, et c'était sorti aux presses universitaires de Rennes en 2017. Donc bonjour Ludivine Bantini.
Bonjour, merci de votre invitation.
L'émission sera principalement donc autour de cet ouvrage, mais on peut également indiquer d'autres ouvrages qui sont intéressants sur ce sujet, notamment si on veut décentrer le regard de la France, un intéressant ouvrage de Romain Cruise, Le mai 68 des Caraïbes, paru aux éditions Mémoire d'Encrier en 2018. On ne parlera pas tellement du mai 68 des Caraïbes, ça va être franco-centré plutôt, cette émission. On peut également indiquer pour une étude de cas très intéressante un ouvrage co-dirigé par Olivier Filleul et Isabelle Sommier, Marseille années 68, aux presses de Sciences Po, également paru en 2018. Pour une version condensée, on peut indiquer l'ouvrage de Boris Gobille, mai 68, à la découverte, à la collection Repères, également paru en 2018. Pour une version longue, qui touche à toute l'histoire en fait, des années, soit de ce qu'on appelait les années 68, donc de 1962 à 1981. On pourra consulter l'excellent ouvrage sous la direction de Philippe Artière et Michel Zancarini-Fournel, 68, une histoire collective, également paru à la découverte en 2018. Et puis, pour illustrer un peu tout ça, on peut lire l'ouvrage de Walter Lénineau, L'imagination au pouvoir, paru aux éditions Alia en 2018, qui est notamment un ensemble de photographies de tous les tags, tous les graffitis de mai 68 qui montrent bien justement l'imaginaire de 68 qui va être notamment une partie importante de l'émission d'aujourd'hui. Alors pour dire quand même un mot de l'ouvrage, il faut dire que c'est un ouvrage assez particulier dans le sens où il est écrit d'une manière qui tranche un petit peu avec la prose académique habituelle. Donc c'est un ouvrage qui est assez exaltant à lire, qui se lit très bien, qui est assez philosophique sur certains aspects, dans le sens où il y a beaucoup de références à des concepts, à des réflexions philosophiques, à des auteurs comme Walter Benjamin. C'est une réflexion sur 68 qui est assez inhabituelle, notamment toute la quatrième partie de l'ouvrage et la troisième partie, qui sont très novatrices. Donc la troisième partie étant sur l'expérience sensible du politique, qui fait un peu une histoire d'un peu des affects de 68, Et la quatrième partie, plutôt une histoire des imaginaires de 68. Donc, qui sont des choses qui, en général, sont moins traitées par l'historiographie. Et puis, la deuxième partie dont on va beaucoup parler, qui traite finalement de l'histoire de 68 du point de vue du pouvoir, de la police, des opposants à 68, qui est aussi très intéressant. Alors peut-être pour commencer, comme le livre le fait, par un prologue qui s'intitule « Glorieuse entre guillemets, point d'interrogation, des années critiques », qu'est-ce qu'on peut dire sur les années qui précèdent 68 et qui finalement rappellent que 68 ne n'est pas non tout droit sorti de la cuisse de Jupiter, mais que ça a bien une genèse historique.
Absolument, bah merci en effet de cette présentation. Et c'est important que vous commenciez par souligner cette dimension-là, c'est-à-dire le fait que 1968 n'arrive pas comme un éclair dans un ciel serein. Ça invite d'ailleurs à relativiser, nuancer, voire critiquer la notion même de Trente Glorieuses, telle que l'a forgée évidemment a posteriori Jean Forastier. Et c'est une expression, me semble-t-il, qui masque la profondeur des inégalités sociales qui règnent à cette époque et dont on a conscience. C'est-à-dire que je ne pense pas du tout qu'au cours de cette période, l'essentiel de la population imagine véritablement être dans une période glorieuse. Alors, pourquoi ? Bon, il faut bien sûr insister sur le fait qu'on vit mieux, de toute évidence, dans les années 1960 que dans l'immédiate après-guerre, avec les relents encore du traumatisme, de l'occupation, du rationnement et de toutes les destructions. Voilà, on est vraiment sorti de cette période de guerre, même si la guerre, on pourra peut-être en reparler, continue à hanter les consciences. Finalement, la guerre d'Algérie n'est elle-même pas très loin. Donc, il y a certes un taux de croissance qui a permis notamment à Jean Forastier et d'autres de souligner la supposée prospérité, l'harmonie de cette société, un taux de croissance qui est relativement stable autour de 5% par an, donc ce qui place la France à peu près dans la moyenne européenne. C'est un peu moins que le Japon, ce qui concerne l'Occident, mais c'est un peu plus que les États-Unis à la même époque. Mais évidemment, on ne peut pas résumer ni mesurer une période à l'aune de ce seul taux de croissance. Donc, ce qu'il faut surtout souligner, c'est d'une part que les conditions de travail sont très rudes. Et là, je tiens aussi à mentionner l'ouvrage et, de manière générale, les travaux de l'historien Xavier Vignat, qui a notamment consacré un très beau livre à ce qu'il a nommé l'insubordination ouvrière, une politique des usines, c'est-à-dire qu'il revient sur, justement, la manière dont on travaille à l'usine et dont on peut aussi s'immobiliser dans ces années 68. Donc, c'est vrai qu'on travaille dur, on travaille sous une pression qui est encore très hiérarchique, avec des contremaîtres, avec des petits chefs qui exerce vraiment une pression en effet considérable. La France est le pays aussi où on travaille le plus en Europe, c'est-à-dire qu'on travaille en moyenne 46 heures, 48 heures par semaine, parfois donc davantage, selon les secteurs, il n'est pas rare de faire plus de 50 heures par semaine. Et ce, notamment pour de petits salaires. Il y a encore beaucoup, beaucoup de petits salaires, donc on vit parfois chichement. Et puis, il faut aussi se rappeler que cette société, elle est en effet traversée par des inégalités importantes au-delà de ses conditions de travail. Puisque en 1968, il y a quand même 5 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc c'est quand même considérable, 5 millions de personnes dans une société dont on dira pourtant qu'elle était prospère. Et ça, d'ailleurs, les étudiantes et les étudiants qui vont se mobiliser parmi les premiers dès mars 1968 à Nanterre, eh bien le savent tout à fait pertinemment, puisqu'à quelques encablures du campus universitaire, il y a encore des bidonvilles où vivent notamment pour la plupart des familles algériennes dans des conditions qui sont véritablement indignes et qui nous permettent encore une fois de mettre à distance cette relative mythologie des Trente Glorieuses. Il y a aussi des problèmes au-delà des bidonvilles, de vrais problèmes de logement. Il y a un tiers des logements qui sont considérés encore comme surpeuplés à la fin des années 1960. Il y a environ la moitié des logements qui ne sont pas encore équipés de toilettes, d'eau courante, etc. Donc, il ne s'agit pas non plus de noircir le tableau. Encore une fois, on commence à accéder à des produits élémentaires de consommation courante, notamment à de l'électroménager, à des lave-linge, à un réfrigérateur. Voilà, donc on s'équipe. Il y a un peu plus d'espace dans les logements et ça va être important aussi pour les jeunes. Pourquoi ? Parce qu'avoir, pour reprendre la formule de Virginia Woolf, une chambre à soi, eh bien, ça permet aussi de développer une culture à soi. Et c'est assez décisif parce que la musique des années 60, pour revenir aussi à ce que vous formuliez dans votre question, c'est-à-dire des années critiques. Bon, les années 60 ont été en effet des années de contestation, ne serait-ce que par le fait que pour la première fois en Europe, hein, aux États-Unis c'est un peu avant, on assiste à l'émergence d'une culture de jeunes. Alors tous les jeunes n'ont pas la même culture, mais c'est très nouveau parce que dans les décennies précédentes, on écoutait les mêmes musiques que ses parents, on était les mêmes danses, les mêmes loisirs, etc. Donc là, ce qui est neuf, c'est cette culture qui a à la fois un marché, on le sait très bien, avec la production de disques, la production de magazines pour les jeunes, d'émissions aussi, bon, salut les copains, bien évidemment, à la fois magazine et radio, mais c'est aussi une musique qui, à l'époque, apparaît subversive. Il faut aussi penser à tout le courant du protest song qui vient des États-Unis, et l'influence des États-Unis est tout à fait marquante à cet égard, avec notamment l'importance de la guerre du Vietnam, hein, qui est extrêmement présente dans les esprits, à la fois sous une forme très organisée, des comités Vietnam, comité Vietnam de base, comité Vietnam national, mais aussi des manifestations, des chansons, des rassemblements et tout simplement une prise de conscience du monde. Bon. Donc voilà, je dirais que cette période, encore une fois, elle est une période de tension sociale. D'ailleurs, vous parliez de la crise, alors c'est pas encore évidemment la crise qu'on connaîtra à compter des années 73-74, mais ce qui m'a beaucoup frappé en travaillant sur les archives, c'est que la question de l'emploi et notamment la question du chômage commence véritablement à se poser. Pas seulement du côté des organisations syndicales ou politiques qui contesteraient les conditions même de vie, de travail et d'emploi, mais aussi du côté du patronat, du côté d'économistes, du côté du pouvoir. Et d'ailleurs, c'est pas du tout anodin que l'Agence nationale pour l'emploi, hein, la fameuse ANPE, ait été fondée en 1967. Donc si on a besoin officiellement de créer de la part des autorités de l'État une telle Agence nationale pour l'emploi, c'est bien qu'on s'inquiète de cet enjeu. Et d'ailleurs, il y a aussi l'ajout d'un portefeuille ministériel avec la constitution d'un secrétariat d'État à l'emploi. C'est d'ailleurs Jacques Chirac qui l'occupe et ses détracteurs l'appellent Monsieur Chômage. Voilà. Donc on commence vraiment à parler du chômage, à parler du chômage des jeunes, à s'inquiéter de l'avenir des jeunes, en particulier à l'idée d'un décalage entre la formation croissante, la prolongation de la scolarité, des études supérieures qui sont en voie toute relative de démocratisation, hein, parce que, bon, en fait, en 68, les étudiants, ils sont tout à fait minoritaires. Hein. Ils représentent 12% seulement de leur classe d'âge. Hein, donc, voilà, il faut vraiment, là aussi, prendre la mesure du fait que les étudiants ne constituent pas du tout la totalité de la jeunesse, hein, très loin de là. Mais bon, cette progression des effectifs, notamment de l'enseignement supérieur, on passe de 100 000 étudiants environ en 45 à un peu plus de 500 000 en 68, mais tout ça crée aussi des conditions sociales, matérielles, favorables à un esprit critique et en même temps conscient qu'il y a des décalages quoi, entre des attentes, des espoirs et puis des réalités sociales et notamment quant à cette question des débouchés. Voilà, ça c'est une question qui se pose également. Et donc pour terminer sur cet aspect, eh bien évidemment, qui dit difficulté sociale dit aussi conflictualité sociale. Donc les années 60 ont été marquées justement par l'importance des grèves. La décennie s'ouvre alors avec la fin de la guerre d'Algérie, mais avec la grande grève des mineurs en 1963, hein, qui va continuer assez largement à marquer les esprits. C'est quand même un conflit qui a été très populaire, qui a été très tenace, très déterminé, qui a vu aussi toute une population se reconnaître dans cette lutte des mineurs, et notamment des étudiants déjà à l'époque qui se mobilisent en formant des comités, en participant à des rassemblements de solidarité avec les mineurs. Et donc ce qu'il faut souligner, c'est que, par exemple, l'année 1967, c'est vraiment une année de pic de grève. Donc il y a déjà beaucoup de grèves à la veille de 1968. Que l'on songe par exemple à cette grève qui a été aussi très populaire à la Rodia Ceta, hein, on appelait la Rodia, c'était des industries du textile, hein, c'était des textiles artificiels, hein, des usines qui produisaient du nylon, du tergal, hein, et ça a commencé à Besançon, ça s'est étendu à Lyon, à Saint-Fons, à Vez, et en fait à la Rodia, il s'agissait de dire notamment, c'était l'un des slogans des grévistes, nous sommes sommes des hommes, pas des robots. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois des revendications matérielles immédiates comme l'augmentation des salaires, bien évidemment, l'amélioration des conditions de travail, la diminution du temps de travail, mais il y avait aussi cette dénonciation d'une mécanique du travail, hein, d'une mécanique jugée aliénante. Donc, 1967, une année vraiment de mobilisation importante. C'est aussi l'année marquée par les ordonnances sur la sécurité sociale, hein, qui interviennent à l'été 1967 et qui suscitent beaucoup de contestations parce qu'on remet en cause via ces ordonnances les principes notamment issus de la libération. Et donc il y a aussi des manifestations, des rassemblements, des pétitions, des comités de défense de la sécurité sociale qui se structurent. Et puis il y a aussi des mobilisations agricoles avec des manifestations qui sont parfois émaillées vraiment de violence, hein, d'affrontements avec les forces de l'ordre. Je pense notamment aux manifestations qui ont lieu dans l'ouest de la France, à Quimper par exemple, au début du mois d'octobre 1967, des manifestations très dures et d'ailleurs réprimées là aussi avec violence. Et finalement, c'est là qu'on lance les premiers pavés. Hein. Ça m'a aussi frappé. Je l'ignorais avant de faire ces recherches, mais de voir qu'au fond, les premiers pavés n'ont pas été lancés au quartier latin, du côté de la Sorbonne et du boulevard Saint-Michel, mais bel et bien dans des villes comme Quimper, un peu plus tard Redon, et puis à l'aube de l'année 68, une grève aussi importante qui a lieu à Caen, chez les ouvrières et ouvriers de Caen, de certains secteurs, notamment la sous-traitance de l'automobile. Et là, c'est intéressant aussi parce qu'on est face à une sorte de rencontre, hein. Michel Zancarini, Fournel, que vous avez cité tout à l'heure, et Xavier Vignat ont pu parler des rencontres improbables entre ouvriers, étudiants, agriculteurs notamment. Et bien Caen fait figure justement d'une telle rencontre, puisqu'il y a des étudiantes et des étudiants qui viennent soutenir les grévistes, des salariés d'autres secteurs, des syndicats enseignants aussi. Ce qui fait dire au préfet du Calvados, qui s'appelle Gaston Pontal, que cette mobilisation, elle apparaît très inquiétante. Il écrit au ministre de l'Intérieur, Christian Fouchet, pour lui dire « Vous feriez bien de regarder de très près ce qui se passe chez nous à Caen, parce que ça pourrait très bien se passer aussi à l'échelle nationale », ce en quoi il avait une vision assez prophétique.
Oui, c'est intéressant tous les points que vous avez abordés. Ça me fait penser au fait qu'il faut peut-être préciser par rapport à la question des conditions de travail et du fait que l'exploitation dans les usines françaises est extrêmement dure finalement dans les années 60, contrairement à une image un peu d'Épinal qu'on a pu avoir a posteriori. Et elle se fonde notamment sur le fait que les emplois les plus déqualifiés, les plus durs, les plus dévalorisés sont occupés par des femmes et ou des immigrés.
Oui.
Ça, c'est, il me semble, quelque chose de significatif. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va retrouver, contre une vision de l'histoire du mouvement ouvrier qui voit uniquement des ouvriers blancs, qu'on va retrouver quand même de nombreuses femmes et de nombreux immigrés dans le mouvement de mai 68. Pour les immigrés, par exemple, quelqu'un comme Xavier Vignat, notamment, a travaillé là-dessus. Vous avez parlé également de la situation des paysans et des agriculteurs. Et justement, à ce sujet, il faut rappeler que les années 60 sont, on en a parlé dans une autre émission sur l'histoire de l'agriculture capitaliste en France, que les années 60 sont un moment clé de modernisation, entre guillemets, de l'agriculture, mais qui s'opère aux dépens, notamment des petits paysans, avec une logique de concentration foncière, et puis également l'arrivée de la concurrence européenne qui touche de plein fouet ces petits paysans. Et c'est notamment de ça que va naître le mouvement des paysans travailleurs, hein, de Bernard Lambert. Vous avez parlé également des jeunes. Là-dessus, simplement préciser que vous avez également écrit pas mal de choses là-dessus, notamment un ou deux livres. Et c'était important effectivement de rappeler que cette catégorie de jeunes, elle n'est pas si unifiée que ça. Parce que c'est d'ailleurs une critique qu'on retrouve dans la brochure de la misère en milieu étudiant, à laquelle on a consacré une émission, et où les situationnistes comme Mustapha Kayati, donc de Strasbourg, qui sont liés donc voilà, au scandale de Strasbourg, hein, où voilà, des étudiants pro-situationnistes, d'une certaine manière, avaient pris le contrôle de l'UNEF et avaient fait imprimer cette brochure très subversive près de l'UNEF, et où notamment ils dénonçaient l'idée de la jeunesse brandie comme une explication de tout, et c'est ce qu'on va trouver d'ailleurs beaucoup après 68. Cette idée que finalement c'est une espèce de révolte un peu adolescente, puérile, et qui du coup s'explique par cette catégorie, alors qu'en fait, quand on regarde, c'est pas toute la jeunesse qui s'est mobilisée, qui s'est révoltée, elle ne l'a pas fait de la même manière, et surtout il y a eu d'autres acteurs, les ouvriers, les ouvrières, les immigrés, etc.
Oui, mais qui peuvent aussi être jeunes. Pareil, voilà, c'est pour ça qu'il me semble important, en effet, de rappeler que les étudiants sont minoritaires, mais qu'il va y avoir... C'est très intéressant ce que vous dites, hein, et c'est vrai que la situation est complexe, parce qu'on ne peut absolument pas réduire 1968 à une révolte juvénile et a fortiori un conflit de génération, parce que c'est une manière, évidemment, de contourner l'enjeu majeur de 68, qui est au fond de l'ordre d'une lutte de classe. Voilà, c'est très clair, c'est une grève générale. Mais il est certain qu'il y a quand même une impulsion d'une partie de la jeunesse, mais partout, je veux dire, bon, aussi bien du côté des lycées et des universités, évidemment, et par définition et par essence, et que même si, pour ça que ça m'a aussi semblé important de rappeler que finalement, 68 ne commence pas forcément à Nanterre avec le mouvement du 22 mars, il commence tout aussi bien à Caen avec cette grève très, très longue des ouvriers et ouvrières voilà, de cette ville, qui sont d'ailleurs pour la plupart des jeunes, qui sont de jeunes ouvriers. La première génération, souvent dans leur famille, a quitté le milieu agricole pour l'usine, donc, et d'ailleurs, le patronat a considéré que la délocalisation de ce type d'industrie dans l'ouest de la France, et en l'occurrence ici la Normandie, pourrait permettre d'employer cette main-d'œuvre juvénile à bas coût, considérant que c'était une main-d'œuvre plus docile, plus servile, ce qui s'est avéré absolument inexact. Mais voilà, donc ce sont les jeunes quand même qui sont souvent à l'impulsion, et y compris dans la dynamique même de la grève. Ça peut être de jeunes syndiqués d'ailleurs, mais parfois non. Donc les équipes syndicales jouent un rôle. Mais parfois il peut y avoir aussi des tensions, en effet, entre les plus jeunes des salariés, d'ailleurs pas seulement ouvriers, mais il faut quand même rappeler que, on va peut-être y revenir plus en détail, mais que ça peut être aussi des employés de bureaux, de la fonction publique. Il y a toutes sortes de secteurs qui sont touchés au cours de cette grève générale, forcément, parce qu'il y a 10 millions de personnes qui s'arrêtent de travailler, donc parmi ces 10 millions, ben voilà, les secteurs sont très divers, mais les âges aussi sont très divers, et pour autant, il y a quand même cette espèce d'étincelle qui est liée à la jeunesse, pour les raisons qu'on a commencé à évoquer, d'un esprit critique et d'un sentiment que, bon, c'est pas du tout une expression de l'époque, mais un autre monde est possible, c'est-à-dire, vraiment qu'il y a des alternatives possibles à ce monde, qu'on peut l'espérer désormais, qu'on est vraiment sorti de la période marquée par la guerre, et donc il y a des attentes qui peuvent apparaître frustrées.
Oui, ça c'est effectivement important de souligner le fait que dans ces années-là, finalement, toutes les organisations traditionnelles, notamment d'encadrement de la jeunesse militante, que ce soit l'UNEF ou le Parti communiste français, vont se retrouver un petit peu débordées en fait par les aspirations des jeunes ouvriers ou des jeunes étudiants. 68 marque en partie seulement, mais quand même, une espèce de débordement de la gauche traditionnelle française telle qu'elle s'était structurée après 1945 et notamment pendant la guerre d'Algérie. Et par rapport à ça, vous avez parlé du fait que les étudiants et les étudiantes, notamment à Nanterre, avaient peur de ne pas trouver des débouchés, notamment en sociologie par exemple, ou disons des disciplines qui étaient nouvellement créées, où il n'y avait pas forcément d'offres d'emploi très importante derrière. Et là-dessus, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que contrairement, mais je pense que c'est une tendance assez générale de l'historiographie actuelle, de ne pas avoir cherché à trouver une espèce de clé de lecture unique à 68, parce que justement, cette question des débouchés avait fait notamment l'objet de la théorie un peu de Bourdieu sur 68, qui était un peu réductrice finalement.
C'était surtout Boudon aussi. Qui avait théorisé l'idée que c'était la frustration relative, voilà, et que du coup, c'était une manière de, dans une certaine mesure, de dépolitiser les motivations de l'événement. Alors, justement, ce qui est intéressant, parce qu'il y a forcément de la complexité. A posteriori, d'ailleurs, la plupart des personnes qui ont vécu cette période pourront tout à fait nous dire, en fait, quand on perdait son emploi à tel endroit, on pouvait en trouver facilement ailleurs, ce qui est exact, mais ce n'est pas du tout contradictoire avec cette tendance-là de fond, qui est qu'en fait, de plus en plus de secteurs industriels sont touchés par la concurrence que vous évoquiez tout à l'heure à propos de l'agriculture, parce que c'est valable dans tous les domaines. Hein. Il y a vraiment C'est l'année 68 d'ailleurs est marquée par l'ouverture d'un cycle de libre-échange qu'on appelait le Kennedy Round. Et donc en fait, ça crée vraiment une situation de mise en concurrence exacerbée. Et donc dans les secteurs comme les textiles, et vous évoquiez les femmes, elles sont très présentes comme salariées du textile. Le textile, la métallurgie, la petite mécanique, etc. Il y a vraiment, on voit bien dans les archives locales, départementales, il y a beaucoup d'entreprises, de boîtes plus ou moins petites qui ferment. Et donc, voilà, ce sont des tendances elles-mêmes assez complexes. Et quant aux débouchés, c'est intéressant d'ailleurs parce que début mai, à l'université actuellement de Jussieu, c'est pas qu'on appelle ça, à Louvain, un enseignant propose à ses étudiants et étudiantes de plancher, non pas sur un travail de physique comme c'était prévu en examen, mais sur les raisons du mouvement. Et alors, c'est incroyable parce que, mais vraiment, tous et toutes disent oui, il y a un problème de débouchés, on a peur d'être au chômage, et puis d'ailleurs, c'est comme les jeunes ouvriers, il y a cette question d'un déclassement possible. Donc ça c'est vrai, mais pour autant évidemment un événement ne se réduit jamais à ses causes et d'ailleurs n'a jamais d'explication et de cause unique. C'est-à-dire que ça c'est un soubassement parmi d'autres. Il y a d'autres raisons à cette période critique qu'on a décrite et ça, il n'empêche que l'événement ensuite a sa dynamique propre et n'est pas du tout réductible à cette idée qu'il y aurait surtout une frustration par rapport aux débouchés professionnels par exemple.
Oui, et puis effectivement, ça ne peut pas non plus se réduire à l'atmosphère de crise économique qui, effectivement, qu'on peut pointer, notamment, notamment à un niveau local, par exemple à Marseille. Dans le livre Marseille années 68, les auteurs et autrices insistent beaucoup sur le fait que Marseille est touchée particulièrement fortement par notamment la fin de la colonisation, une restructuration industrielle de Marseille, où les nouvelles industries, disons, ont plutôt se localiser ailleurs, notamment à Fos-sur-Mer. Et que du coup, ça crée une vraie crise économique et sociale à Marseille, qui va jouer évidemment un rôle dans 68, mais évidemment, on ne peut pas du tout réduire 68 à, disons, une forme de déterminisme économique. Et ça, c'est justement un aspect intéressant de votre livre, c'est qu'à la fois vous rappelez ce contexte social et économique qui montre qu'il y a quand même des tendances de fond, des structures, mais qu'en même temps, l'événement a sa propre autonomie qui ne peut pas s'y réduire. Et vous avez évoqué toutes ces conflictualités, notamment de l'année 1967, où on voit déjà, et on l'avait déjà vu au moment des grèves de mineurs de Decazeville en 1963, si je me souviens bien, cette question des convergences, des rencontres improbables entre notamment étudiants, étudiantes et ouvriers, ouvrières. Je pensais que ça avait été principalement un mot d'ordre, et qu'en fait, la CGT et le Parti communiste français avaient réussi finalement à empêcher cette rencontre, à part avec quelques exceptions, notamment ce qui s'est passé à Sanzier avec des regroupements de jeunes travailleurs et d'étudiants très radicaux. Et en fait, ce que vous montrez dans votre livre, et c'est l'objet du premier chapitre, Soyons tous étudiants, paysans, ouvriers, rencontres et solidarité, vous montrez qu'en réalité, pendant le mois de mai-juin, en fait, il y a quand même des rencontres, pas mal de solidarité, ce qui explique par exemple que un des morts de 68, un jeune maoïste, va mourir près de Flin en juin 68, précisément parce qu'il se trouvait engagé dans la lutte contre la fin de la grève dans cette usine. Après, il est mort notamment après avoir été poursuivi par les CRS, ce qui montre un peu concrètement cette solidarité. Est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus ?
Oui, c'est en effet très important et je crois que ça a été occulté par le souvenir bien réel de ce qui s'était passé le 17 mai, soit 4 jours après le début de la grève, enfin 13 mai 1968, c'est la journée au cours de laquelle les syndicats appellent à une grève de 24 heures et puis à ce débordement dont vous parliez. Et puis le 17 mai, il y a environ 3000 étudiantes et étudiants qui partent de la Sorbonne pour essayer de rejoindre Renaud-Billancourt et là, les grilles se referme sur la consigne de la section CGT de Renaud-Billancourt. Et dès lors, on a considéré que ces grilles fermées étaient le symbole d'un clivage qui ne se serait pas résorbé en mai-juin 68. Or, je pense que, encore une fois, dans le prolongement de ce qu'avaient avancé Michel Zancarini-Fournel et Xavier Vignal, je pense que c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Et là, les archives sont très abondantes pour nous démontrer qu'il y a eu, en effet, beaucoup de solidarité. Alors, comment l'expliquer, puis ensuite, comment le décrire? écrire. Comment l'expliquer ? C'est d'abord que bon, la matrice générale de 68, pas seulement en France, mais à l'échelle internationale, c'est quand même une matrice émancipatrice qui se fonde essentiellement sur des références soit anarchistes, libertaire ou marxiste, et d'ailleurs c'est tout à fait compatible, marxiste-libertaire on peut l'être aussi, c'est-à-dire que même si on ne se reconnaît pas comme tel ou si on n'est pas organisé comme tel, c'est quand même ce qui fait l'air du temps du côté de la contestation, de l'insubordination, de l'insurrection, et puis de la grève. Voilà. Et donc ça marque tout particulièrement le monde étudiant et aussi une partie du monde lycéen qui se mobilise avec donc deux soubassements, c'est-à-dire d'une part, nous ne voulons pas, comme étudiants, être les futurs cadres de ce système que nous rejetons. Nous ne voulons pas être ces courroies de transmission. Nous ne voulons pas être contribuer à être les nouveaux maîtres de ce système. Donc, nous voulons briser la division sociale du travail entre le travail manuel et le travail intellectuel. Donc, nous voulons, bien sûr, nous sommes étudiantes, étudiants, lycéens, lycéens, etc. Mais nous ne sommes pas que ça. Donc ça, c'est ce qui est dit beaucoup chez les étudiants contestataires. Hein. Nous ne sommes pas que ça. Nous ne voulons pas être enfermés dans cette identité. Nous ne voulons pas non plus que la presse cherche à cliver le monde salarié et le monde étudiant, parce que c'est de bonne guerre de la part du pouvoir, mais on y reviendra. Donc nous ne voulons pas être séparés du monde ouvrier. Donc c'est d'abord une question de principe politique, hein, c'est quelque chose de très structurant dans les convictions politiques de cette époque, c'est-à-dire qu'il faut se tourner vers la classe ouvrière. Il faut aller vers les usines, vers les bureaux, vers les magasins, vers les services, les chèques postaux, les postes, etc., les gares, les ports. Il faut être présent pour aider au développement de la grève. Et c'est aussi, ça suppose aussi d'ouvrir les universités aux travailleurs. Mais il y a une deuxième raison qui est aussi pragmatique, hein, et c'est évidemment tout à fait complémentaire. Hein, donc il y a une raison très politique, hein, et puis une raison pragmatique, c'est que les étudiantes et étudiants mobilisés savent très bien qu'isolés, ils ne remporteront pas de victoire décisive. Donc il y a vraiment cette idée dont on est convaincu à l'époque, de là, pour reprendre une formule consacrée, la centralité de la classe ouvrière. Voilà, c'est-à-dire que c'est la classe ouvrière, c'est le prolétariat qui peut véritablement avoir l'arme décisive pour bloquer l'économie, à savoir la grève. Donc ce sont deux piliers qui expliquent quand même cette motivation à opérer ces rencontres, même s'il y a des obstacles. Alors comment se réalise-t-elle concrètement ? D'abord, en effet, il y a beaucoup de jeunes étudiants ou lycéens qui vont sur les piquets de grève, qui vont prêter main forte. C'est pas toujours évident, mais en tout cas, ça crée vraiment des lieux où on commence à se parler, on essaie de se comprendre, même si il y a quand même des clivages sociaux évidents, parce que bon, je l'ai rappelé déjà à deux reprises tout à l'heure, mais les étudiants, comme ils sont minoritaires, ils sont quand même principalement issus de milieux assez privilégiés socialement. Pas tous et pas toutes, bien sûr, il y a aussi des boursiers, il y a des gens qui, là aussi pour la première fois dans leur famille, font des études supérieures, mais globalement, il y a vraiment moins de 8% d'enfants d'ouvriers dans les universités, moins de 5% d'enfants d'agriculteurs. Donc là aussi, il y a une conscience de ces privilèges, et parfois, il y a aussi une méfiance de la part des ouvriers dans les usines qui voient arriver ces étudiants. Mais précisément, comme les chances sont très pragmatiques, ils voient bien que ces jeunes-là, ils arrivent pour aider, pour soutenir, et c'est un soutien qui est vraiment pas uniquement verbal, de parole, mais c'est vraiment un soutien matériel, évident. Et vous avez tout à fait raison de rappeler que c'est dans ces circonstances d'une aide réelle, physique et politique à l'occupation d'une usine, en l'occurrence Renault à Flins, que le 10 juin 1968, Gilles Tautin, 17 ans, lycéen et militant maoïste, va trouver la mort. Donc c'est l'incarnation même de ces solidarités. Après, il y a aussi le fait que beaucoup de ces jeunes vont participer à des collectes, vont organiser même, être à l'initiative de collectes, vont aller voir notamment justement des agriculteurs pour leur demander de soutenir les familles de grévistes par la livraison de denrées alimentaires, soit gratuitement, soit à prix coûtant, et ça va se réaliser dans bien des endroits. Et puis, il y a aussi, à l'inverse, dans une certaine mesure, le fait d'ouvrir les universités au débat, donc transformer les universités en sorte d'agora, de lieux où on va pouvoir parler, constituer des commissions de travail, des commissions thématiques, des assemblées générales, bien évidemment. Et là, on retrouve quand même cette idée de jeunesse, parce que ce sont surtout des jeunes ouvriers qui vont dans les universités, qui vont voir, qui vont discuter. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de phénomènes très matériels, très concrets, parler de ces solidarités, même s'il ne faut pas nier les obstacles, et vous avez raison aussi de souligner qu'il y a des blocages qui viennent essentiellement de certaines sections de la CGT, qui disent, bon, en gros, les étudiants dans les universités, les ouvriers dans l'usine, la classe ouvrière française n'a pas de leçons à recevoir du monde étudiant. Et en fait, justement, les étudiantes et étudiants qui viennent les voir, ils ne sont pas dans une perspective de donner des leçons, hein, pas du tout. C'est en général avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'admiration pour le monde ouvrier, pour son courage, etc. Voilà, il y a des obstacles réels, comme le démontre le moment Billancourt. Mais il y a aussi des endroits où la CGT n'applique pas ce type de consigne. Il y a aussi des endroits où elle est moins influente, où c'est davantage la CFDT qui domine. Et à cette époque, la CFDT, c'est un syndicat, on va dire, très politique, au sens où il a aussi un programme politique assez radical, très tourné vers des questions autogestionnaires. Et la CFDT est vraiment, avec des différences selon les fédérations, selon les branches, etc., mais quand même vraiment très axée sur les solidarités étudiants-travailleurs, et donc ne va pas du tout appliquer... cette ligne de clivage entre les deux, tout au contraire, va encourager, favoriser ces rencontres et vraiment soutenir le mouvement étudiant aussi.
Et justement, par rapport à ces solidarités, vous avez parlé de marxisme libertaire, et c'est vrai que dans les années 60, et ça va se cristalliser en 68, notamment par le CMDO, le Comité pour le maintien des occupations,
oui.
Et aussi par tout ce groupe autour de Censier qui s'inspire pas mal des idées situationnistes, qui finalement a été un des courants qui a inspiré mai-juin 68, où les idées situationnistes ont un peu énervé dans le mouvement, et qui avait comme idée que les mouvements étudiants et un mouvement ouvrier débarrassé des partis, des syndicats staliniens et bureaucratiques, etc., pouvaient converger de manière intéressante, à la condition que vous avez mentionné, c'est que les étudiants refusent leur destin social de futurs membres de la classe d'encadrement du prolétariat. Là-dessus, on a fait une émission avec Alain du Bloc Carbure, mais c'est justement intéressant qu'il y ait eu cette conscience dans 68 et qui est peut-être nouvelle, qu'on ne trouvait pas, par exemple, dans les générations précédentes, par exemple, des intellectuels proches du Parti communiste, il n'y avait pas cette espèce de conscience critique que les cadres, les intellectuels, etc., pouvaient, en fait, eux aussi exercer des formes de pouvoir sur le prolétariat, pouvaient aussi participer, finalement, de la reproduction de la société capitaliste. Et il y a quand même une autocritique qui est intéressante de ce point de vue-là, d'une partie des classes moyennes qui refusent un petit peu leur rôle d'intermédiaire finalement entre, disons, l'État, le capital, et, d'une part, et le prolétariat, d'autre part.
Oui. Alors c'est vrai, vous insistez à juste titre sur l'influence, c'est un mot compliqué, des situationnistes. Et vous l'avez bien dit, c'est plutôt une manière d'innerver, hein, de donner un air du temps. Et les situationnistes sont en effet marxistes. Et alors, c'est vrai que même s'ils sont très peu nombreux, et je le dis uniquement masculin, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes, et d'ailleurs ils ne sont pas spécialement féministes, hein, ils n'ont pas du tout cette conscience-là. Mais en revanche, donc ils sont peut-être même pas 100, hein. En France, il y a des petits groupes à l'échelle internationale, mais évidemment leur influence n'est pas directement proportionnelle à leur nombre. Et il faut se rappeler bien sûr que, par exemple, la Société du spectacle que publie Debord en 1967, c'est un livre qui est profondément marxiste. Parce que qu'est-ce que c'est que le spectacle, sinon le fétichisme de la marchandise exacerbé, voilà, à toute la vie. Voilà. Donc il faut trouver des formes de vie alternatives. Et il y a une proximité, bien sûr, avec Henri Lefebvre, philosophe marxiste qui enseigne à cette époque à Nanterre. Donc il y a vraiment cette importance, en effet, qui marque les esprits de ces livres-là qui viennent créer une sorte de conscience critique de leur propre statut de la part des étudiants et, de manière plus générale, des classes moyennes, des cadres, comme vous l'avez souligné. Il y a un autre ouvrage qui a quand même jouer aussi ce rôle d'influence, c'est les héritiers de Bourdieu et Passeron, parce que il y a même eu des représentations, des spectacles, etc., des sortes de des adaptations des héritiers. Donc c'est vraiment la prise de conscience que la formation scolaire n'est pas forcément une voie unique, en tout cas uniquement de la démocratisation, mais aussi une forme de reproduction de codes sociaux émanant de la bourgeoisie, de la moyenne ou de la petite bourgeoisie. Et ça marque aussi beaucoup les esprits, en tout cas chez les étudiantes et les étudiants qui se mobilisent, donc qui vont mettre à distance leur propre statut, l'interroger et dès lors adopter aussi une position d'humilité. Et cette position d'humilité, on la retrouve chez certaines figures intellectuelles par excellence, et je pense à Sartre tout particulièrement, puisque Sartre, qui à l'époque évidemment est l'un des intellectuels les plus connus au monde, et bien Sartre, d'une part, il interroge justement de manière très critique ce statut même d'intellectuel, et pour lui est intellectuel pas celui ou celle qui aurait profession de pensée, mais celui ou celle qui, prenant conscience justement des clivages de son existence sociale, décide de s'opposer au système qui crée ces clivages et donc de s'engager frontalement contre lui. C'est ça pour lui la définition de l'intellectuel, peu à peu, quelque chose que plus tard on retrouvera aussi chez Jacques Rancière notamment. Et l'application pratique de cette sorte de modestie de Sartre en 68, c'est le fait que pour le Nouvel Observateur, c'est lui qui interroge Daniel Cohn-Bendit et pas l'inverse. Voilà, c'est lui qui se place en position d'interrogation, d'intervieweur, qui n'a pas la clé de tout et qui est même admiratif devant la capacité créatrice de cette jeunesse-là.
Oui, justement, cet entretien va avoir comme titre célèbre donc l'imagination au pouvoir, oui. Qui est une expression du coup que Sartre utilise dans l'interview. C'est une partie très intéressante de votre livre là-dessus. On pourrait mentionner peut-être un troisième livre qui a été très influent en 68, qui est le Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations de Raoul Van Engem, sur lequel on a fait une émission, comme on avait fait une émission aussi sur la société du spectacle, qui sont effectivement deux ouvrages très importants de l'époque, et qui, et là ça nous permet de passer peut-être au deuxième chapitre de votre ouvrage, qui, intéressé par toutes les formes de contestation étudiante, mais qui n'en demeure pas moins marqué par la centralité de la grève, et notamment l'imaginaire de la grève générale. Et c'est effectivement ce qui se passe en 68. Comment est-ce qu'on pourrait décrire cette grève générale qui a été discutée? Est-ce que c'est une généralisation de grève? Est-ce que, enfin voilà, puisque finalement il n'y a pas vraiment eu de mot d'ordre de grève générale limitée, en tout cas celle de 24 heures. Mais comment est-ce qu'on peut la caractériser? Et concrètement, comment est-ce que ça s'est passé?
Oui, alors c'est vrai que le 13 mai 1968, il y a un appel à la grève générale, mais une grève carrée. Une grève carrée, donc toutes les organisations, toutes les confédérations syndicales y appellent, et ça va donner de très imposants cortèges, quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le pays à cette échelle. Il y a quelques 500 cortèges dans toute la France, et puis ce sont vraiment des manifestations qui sont très impressionnantes. Mais voilà, à ce moment-là, au soir du 13 mai, les confédérations syndicales pensent que ça va s'arrêter là, sauf que dès le lendemain, comme on s'en rappelle peut-être, à Sud Aviation Bouguenais, donc dans la banlieue de Nantes, il y a la reconduction de la grève avec occupation de l'usine et en plus avec le vote de la séquestration du directeur de l'usine. Et ça se fait d'ailleurs plutôt sous l'impulsion, non pas de la CGT, ni même de la CFDT, mais d'une section force ouvrière qui se trouve être essentiellement influencée par les courants plutôt trotskistes du lambertisme, comme on le dit entre guillemets. Voilà, il y a une dynamique ensuite de la grève qui est très largement une dynamique par la base, une dynamique assez spontanée, donc sans consigne, en effet, même si bien sûr les équipes syndicales jouent un rôle réel. C'est-à-dire qu'on a vraiment on a trois types de configurations. Soit il y a vraiment une décision des syndicats locaux, des syndicats dans les entreprises de se mettre en grève. Et parfois, dans le souvenir de grèves précédentes, justement, c'est pour ça que c'était important de rappeler que dans les années 60, il y a eu beaucoup de grèves, voire dans le rappel de grèves un peu qui avaient eu lieu dans les années 50, qui rappellent rappelle les souvenirs du Front populaire ou qui rappelle les souvenirs aussi de la libération. Donc ça, c'est la première configuration, c'est une impulsion vraiment syndicale. La deuxième configuration, c'est là où il peut y avoir des divisions syndicales, où certaines vont freiner un peu des cas de fer et d'autres vont être plutôt dans cette dynamique même de la grève. Et puis, il y a une troisième hypothèse qui se réalise ici ou là, c'est quand des jeunes non syndiqués lancent la grève et parfois vraiment l'occupation sans requérir les syndicats et lesquels sont entraînés dans le mouvement. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le fait de se lancer dans la grève. Alors la grève, elle laisse du temps, hein, c'est ça qui est très important dans la grève, c'est que non seulement ça bloque et donc ça inverse le rapport de force entre les patrons et les ouvriers, les salariés, et puis aussi au niveau du pouvoir central, mais ça laisse aussi du temps. Et donc, là, surtout quand les entreprises sont occupées, hein, comme c'est le cas beaucoup en 68, eh bien, on a le temps de réfléchir, de s'organiser, de penser à son métier, à sa vie, à son travail, à son quartier. Donc, il y a vraiment toute une auto-organisation de la grève à la base, bien sûr par des comités de grève, mais aussi par des comités d'action, des comités de quartier, donc qui vont permettre de voir surgir un certain nombre de projets. Alors, c'est pas vrai partout non plus, cette auto-organisation, parce qu'il y a aussi des endroits où sont vraiment les syndicats qui tiennent l'occupation et qui peuvent dire aux autres salariés, vous pouvez rentrer chez vous, on s'occupe de tout, en gros. Donc là aussi, il peut y avoir comme ça des tensions. Il n'y a pas d'homogénéité de la situation. Parfois, une véritable auto-organisation à la base et à d'autres endroits, justement, plutôt une sorte de maintien de l'ordre de la grève par les syndicats et notamment par la CGT. Et puis, ce qui est aussi tout à fait marquant, justement, quand on veut décentrer le regard par rapport à Paris ou à la région parisienne, c'est de voir, grâce à notamment aux archives départementales, que je suis allée voir un petit peu partout dans des départements très divers, soit des départements très ouvriers, soit des départements au contraire assez ruraux, que cette grève, elle a lieu vraiment dans une multiplicité d'endroits, pas uniquement dans les grands bastions ouvriers, pas uniquement dans les régions et les grandes villes de tradition industrielle, mais aussi de tradition du mouvement ouvrier, mais aussi dans des endroits plus improbables. Je me souviens d'ailleurs d'avoir lu les réactions du préfet de la Meuse à Bar-le-Duc, qui dit, mais qu'est-ce que c'est, je ne reconnais pas mon département, d'habitude si conservateur, si patriarcal, où il ne se passe jamais rien. Et là, il y a des grèves. Je suis allée aussi, par exemple, dans les Vosges, aux archives départementales d'Épinal, et j'ai pu y constater que, y compris dans de toutes petites entreprises, notamment du textile, 10 salariés, 20 salariés, 50 salariés, il y a des grèves avec occupation, avec des rassemblements, etc. Donc c'est ça qui est aussi vraiment très frappant dans cette dynamique de la grève en mai-juin 68, qui fait qu'on n'a pas le même rapport de force que sous le Front populaire. Parce que là, on a aussi des secteurs extrêmement divers, au-delà du monde industriel, qui sont touchés par la grève et les occupations.
Alors, avant de parler de la réaction politique, patronale, d'extrême droite à cette grève généralisée, et puis la situation de crise politique que rencontre la France, avec la contestation étudiante, la nuit des barricades du 10 mai, la fermeture de la Sorbonne, puis la réouverture. Et puis aussi, avant de parler de comment est-ce que va finir cette grève dont on vient de parler, on va faire une pause musicale avant d'aborder une partie consacrée à finalement 68 du côté, entre guillemets, de la contre-révolution, du pouvoir, de la police, de l'extrême droite, etc.
La branche a cru dompter ses feuilles, mais l'arbre éclate de colère. Ce soir que montent les clameurs, le vent a des souffles nouveaux au royaume de France. Le peintre est monté sur les pierres, on l'a jeté par la frontière, je crois qu'il s'appelait Julio. Tout le monde ne peut pas s'appeler Pablo, royaume de France. Et le sang des gars de Nanterre a fait l'amour avec la terre et fait fleurir les oripeaux. de sang et couleur du drapeau, royaume de France. Et plus on viole la Sorbonne, plus Sochaux ressemble à Charonne, plus Beaujon ressemble à Dachau. Et moins nous courberons le dos au royaume de France. Perché sur une barricade, l'oiseau chantait sous les grenades, son chant de folie était beau. Et fous les enfants de Rimbaud, royaume de France. La branche a cru dompter ses feuilles, mais elle emportera le deuil et l'emportera au tombeau. L'automne fera pas de cadeau, royaume de France.
Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à 68, mai-juin 1968, autour de l'ouvrage de notre invité Ludivine Bantigny, qui s'intitule « 1968, de grand soir en petit matin ». Et donc après une première partie consacrée un peu à la genèse historique de 68, aux grèves, à la convergence des étudiants et du mouvement ouvrier, on va parler de 68 du côté du pouvoir, donc qui est l'objet de la deuxième partie de l'ouvrage, en parlant donc de la question de la police, de la question du pouvoir, du gouvernement, et puis aussi de l'extrême droite, parce que c'est en général une partie de 68 qu'on connaît assez peu, à part certains épisodes un peu spectaculaires comme la fuite de Gaulle à Baden-Baden, ou effectivement les violences policières. Mais on trouvait que c'était vraiment intéressant de partir de ça. Alors, peut-être qu'on peut commencer, même si ce n'est pas comme ça que ça se fait dans le livre, par commencer par la question du pouvoir. Comment est-ce que le pouvoir va réagir aux événements, en partant peut-être du fait que, justement, ces événements, ils ne les avaient pas du tout anticipés?
Non, c'est vrai qu'ils ne les avaient pas anticipés, et pourtant, les rapports de certains préfets, tout à l'heure j'ai parlé du Calvados avec la ville de Caen, pouvaient laisser entendre que des tensions étaient réelles, et on a évoqué l'importance de cette conflictualité. Mais il n'empêche qu'il y a une vraie déstabilisation du pouvoir. Ce que j'essaie de montrer à la faveur des archives, c'est que finalement, on a beaucoup opposé une ligne de Gaulle et une ligne Pompidou. En fait, ils sont quand même assez proches dans la même manière de gérer la crise. Il y a la même déstabilisation et d'ailleurs, à titre personnel, une sorte de crise existentielle. Donc c'est vrai que De Gaulle se pose vraiment sérieusement la question de savoir s'il ne devrait pas quitter le pouvoir. Et puis on a dans la correspondance de Pompidou le témoignage de cette sorte de traversée, de crise que lui-même vit comme ça, mais d'un point de vue très existentiel, quasiment philosophique. Il parle vraiment de la vanité en fait, du pouvoir. On se dit qu'en tout cas, c'est une crise qui dépasse très largement les compétences gouvernementales. Donc bon, ça c'est un point commun entre les deux têtes de l'exécutif, le chef de l'État et le Premier ministre. Mais par ailleurs, ils sont aussi sur la même longueur d'onde qui consiste à gérer la crise, enfin ce qu'ils considèrent comme gestion de la crise, par la carotte et le bâton. Bon, ce sont des armes classique, évidemment. D'abord par la tentative de division entre le monde du travail et le monde étudiant. Et d'ailleurs, dans les archives de l'Élysée, on voit de manière assez claire et assez cynique aussi certains conseillers de Gaulle qui disent « Bon, bah, en fait, on peut éventuellement gérer une crise étudiante, on peut gérer une grève ouvrière, mais la convergence des deux, enfin, ils ne parlent pas de convergence, mais ils disent, voilà, l'alliage des deux comme ça, c'est là que le bât blesse et qu'on est complètement en panique, en fait. » Et c'est le cas. Donc, tenter à toute force force, comme le fait Pompidou, de dire que les étudiants, voilà, qui se mobilisent, ne sont pas sérieux, ne sont pas raisonnables, que bon, là où le monde ouvrier, c'est le monde du labeur, c'est le monde justement du sérieux. Donc, il va y avoir vraiment cette tentative de division, même si voilà, Pompidou décide d'ouvrir à nouveau la Sorbonne, mais c'est pas, enfin, contrairement à ce qu'on a dit souvent, c'est pas une décision qu'il a prise à titre personnel. Voilà, De Gaulle l'approuve évidemment, mais De Gaulle ne veut pas aller au charbon, c'est pas à lui de s'abaisser, pense-t-il,
à faire des concessions.
Non, pas seulement à faire des concessions, mais en tout cas à les proclamer, donc à les annoncer. Donc voilà, il y a une sorte de partage des tâches. C'est à Pompidou d'aller déclarer que la réouverture de la Sorbonne est décidée, mais là il y a une même longueur d'onde entre les deux hommes. Et puis la carotte, hein, c'est-à-dire que tous deux sont aussi d'accord sur l'idée de négocier. Donc Grenelle, même si c'est Pompidou qui préside aux discussions de Grenelle, avec voilà, essayer de retrouver une maîtrise des événements par la négociation avec les syndicats, c'est une décision qui leur est commune. D'ailleurs, là aussi, les archives de l'Élysée montrent qu'il y a un moment eu une hésitation, que certains voulaient que ce soit De Gaulle lui-même qui préside cette réunion à Grenelle, qui ne s'appelait pas encore forcément la réunion de Grenelle, mais justement on se demandait si ça ne pouvait pas être soit Matignon pour rappeler le Front Populaire, soit carrément à l'Élysée. Bon. Et donc finalement, c'est Pompidou qui officie, mais De Gaulle est tout à fait sur cette ligne aussi. Et en fait, la ligne de l'exécutif, c'est de dire, bon, faut lâcher un peu sur les salaires. Donc, faut lâcher sur les salaires, donc ça veut dire 35% d'augmentation du SMIG, et puis l'augmentation des salaires et de 7 à 10% et la reconnaissance des sections syndicales d'entreprise. Il y a énormément de sujets qui ne sont pas du tout discutés à Grenelle, comme la réduction du temps de travail, comme la question de la sécurité sociale, comme l'âge de la retraite, bon, des tas de choses comme ça. Mais là, il y a une sorte d'accord entre la direction de la CGT, le pouvoir et le patronat pour dire, on va circonscrire en fait l'étendue même des concessions du côté du pouvoir et des revendications du côté syndical. Et puis il y a le bâton. En fait, le bâton, c'est la répression. Donc là aussi, il y a vraiment, faut quand même se rappeler qu'on est, on parlera à propos de la police, mais que voilà, la guerre d'Algérie n'est pas loin. Il y a voilà, c'est quand même De Gaulle lui-même qui avait validé des répressions extrêmement féroces, aussi bien le 17 octobre 1961, manifestation des Algériennes et des Algériens à Paris, que de voilà, ce qu'on a appelé Charonne le 8 février 1962. Donc voilà, on sait que le pouvoir peut être impitoyable en matière de répression, et d'ailleurs il l'est, parce qu'il y a une vraie violence en 1968. Voilà. Et en fait, cette répression, elle se marque aussi par l'idée que, à partir de Grenelle, comme voilà, il y a eu quand même, sinon un accord ratifié comme tel, mais un protocole qui a satisfait globalement les partis avec un E, hein, c'est-à-dire les trois partis, les syndicats de salariés, le patronat et l'État, eh bien désormais on peut faire cesser cette grève et dès lors réprimer toutes celles et tous ceux qui la poursuivraient. Et donc c'est vraiment la décision d'envoyer les forces de l'ordre dans les usines encore occupées, dans les lycées, dans les universités, et ça se fait vraiment dans une très grande violence. On a parlé tout à l'heure de ce qui s'était passé à Flins. On pourrait aussi évoquer ce qui se passe d'ailleurs le lendemain de la mort de Gilles Totin, le 11 juin, la mort de deux ouvriers à Peugeot-Sochaux, Henri Bello et Pierre Blanchet, lors de l'intervention des CRS. L'un se prend une balle dans la tête et l'autre meurt des suites du tir d'une grenade offensive. Donc vraiment une répression féroce, implacable, qui s'accompagne aussi de décisions politiques qu'on peut considérer comme antidémocratiques, en particulier la dissolution de 11 organisations, on peut dire révolutionnaires, en tout cas qui s'intitulent comme telles, hein, qu'il s'agisse d'anarchistes, du mouvement du 22 mars, de trotskistes ou de maoïstes. Donc dissolution, et ce qui est frappant, c'est que, hormis une protestation du PSU, hein, le Parti Socialiste Unifié, dirigé par Michel Rocard à cette époque, les forces de gauche, les partis de gauche et en particulier le Parti communiste français ne protestent pas contre cette dissolution, qui est quand même une décision grave du point de vue du pouvoir. Et dans le même temps, ce même pouvoir décide aussi par décret de l'amnistie des anciens de l'OAS. Bon, ça, c'est quand même frappant. C'est que bon, bah, De Gaulle a besoin en fait de soutien. Donc il a besoin du soutien de l'armée, d'où Baden-Baden et sa rencontre avec Massu, d'où le fait aussi qu'il laisse vraiment entendre que ce recours à l'armée pourrait tout à fait être envisagé, qu'il y a des mouvements de troupes dans le pays, bon, notamment fin mai, début juin. Mais il a aussi besoin de toutes les droites, quoi, et y compris de celles qui lui en veulent toujours pour avoir cédé l'indépendance de l'Algérie. Même si, bon, c'est évidemment pas De Gaulle qui l'a concédé, mais c'est d'abord et avant tout le mouvement d'indépendance algérienne lui-même. Donc, en fait, amnistie des anciens de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, les mêmes en gros hein, qui voulaient lui tirer deux balles dans la tête quelques années auparavant. On se rappelle l'attentat du petit Clavard en 63. Donc ça veut dire concrètement que ces gens de l'OAS, eh bien, soit sortent de prison, soit rentrent d'exil. Donc voilà, il y a deux décisions qui sont prises de manière concomitante, qui disent très bien la politique du pouvoir. Et puis l'autre chose, et vous avez aussi tout à l'heure parlé à juste titre de l'importance des travailleurs étrangers en 68, de l'importance de leur mobilisation. L'autre décision du pouvoir, c'est l'extrême sévérité à leur égard, notamment la politique d'expulsion. Il y a plusieurs centaines d'étrangers qui vont être expulsés de France, notamment des travailleurs venus du Maghreb, surtout des Algériens, et puis aussi, par exemple, des Espagnols qui sont reconduits à la frontière dans une Espagne qui est évidemment encore franquiste, donc c'est au péril de leur liberté, voire de leur vie. Donc, voilà, c'est une politique après un moment de panique, après un moment vraiment de flottement et de désarroi, en fait, cherche à retrouver la politique classique, donc des négociations avec ce qu'on n'appelle pas encore les partenaires sociaux, mais voilà, qui sont envisagés comme tels, le fait de pouvoir compter sur les droites, sur l'armée, mais aussi le fait de pouvoir compter quand même sur le PCF. C'est-à-dire de pouvoir se dire qu'à partir du moment où De Gaulle annonce la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue de nouvelles élections qui auront lieu les 23 et 30 juin, ben, encore faut-il que les forces politiques le suivent. Et c'est le cas, en fait, parce que le PCF va dire assez rapidement, ce sera le titre du journal L'Humanité, je crois que c'est le 6 juin, « Reprise victorieuse du travail dans l'unité ». Donc qui est pas seulement un constat, puisque à cette époque, il y a encore, à ce moment-là, il y a encore presque 2 millions de grévistes, mais c'est une injonction aussi. On a gagné à Grenelle, reprise. Et donc maintenant, on va préparer les élections. Il y a quand même une entente tacite de ce point de vue, en fait. C'est-à-dire le fait qu'on se comprend quand même entre gens supposément raisonnables qui veulent maintenir les institutions comme telles et la voie électorale comme panacée.
C'est intéressant ce point parce que finalement, on voit, et ça a été beaucoup critiqué pendant les événements et après, que finalement, la CGT et le PCF ont quasiment eu un rôle contre-révolutionnaire. Contre-révolutionnaire dans le sens où le but, clairement, pour la CGT et le PCF n'est pas de transformer ce qui se passe en 68 en un moment révolutionnaire, mais plutôt de l'endiguer vers, disons, une solution réformiste, voilà, notamment l'augmentation des salaires, et finalement qui ne va même pas aussi loin que la CFDT, qui posait des questions plus centrales sur les conditions de travail, la réduction du temps de travail, la question de l'autogestion. Finalement, la CGT reste dans le rôle qui a été le sien et le PCF aussi, disons depuis l'arrivée au pouvoir de Khrouchtchev et sa notion de coexistence pacifique finalement entre capitalisme libéral et capitalisme d'État en URSS, qui est une politique finalement de collaboration politique dure et ferme, dans le sens où malgré tout, le PCF et la CGT doivent quand même représenter les intérêts de la classe ouvrière française, mais où il n'y a jamais, disons, d'horizon révolutionnaire. Et finalement, c'est ça un petit peu tout le paradoxe du discours du pouvoir gaulliste, notamment. C'est de finalement toujours agiter le spectre du communisme totalitaire, alors même que finalement, parmi les forces de gauche, le PCF et la CGT sont quasiment les forces les plus modérés, les plus réformistes, qui vont le plus faire finalement un peu le jeu de la négociation et de la reprise du travail, alors même que par exemple la CFDT ou le PSU, et sans même parler des trotskistes, des anarchistes, des situationnistes, eux sont en fait beaucoup plus à gauche et beaucoup plus révolutionnaires. Et vous avez parlé de la carotte, et une des autres carottes, évidemment, c'est la participation. Mmh. C'est cette idée de, finalement, bon, qui est un peu une espèce de nouvelle idée de collaboration de classe, un petit peu d'intéresser finalement le prolétariat au profit du capital, parce que de l'intéresser à son exploitation, disons, avec l'idée que ça va créer une harmonie de classe. Et effectivement, c'est là où, et vous en parlez dans votre chapitre 6, que finalement les gaullistes de gauche, en parlant de cette idée de participation, vont finalement donner des bonnes idées, finalement, même si c'est pas décisif, hein, cette idée, évidemment, pour expliquer la fin, entre guillemets, du moment 60, de mai-juin 68. Mais ils vont finalement donner des meilleures idées au pouvoir en termes, justement, d'endiguement de la contestation que les gaullistes de droite, même si, et ça, c'est quelque chose d'important dans la deuxième partie de votre ouvrage, même si finalement, ce n'est pas tellement cette question de la participation qui va être ce qui va permettre à, finalement, au pouvoir de reprendre la main. C'est d'une part, effectivement, le fait que la plupart des forces de gauche vont accepter, en fait, finalement, de mettre fin au moment contestataire de mai-juin 68 pour aller sagement, disons, attendre le résultat des élections de juin 68. Mais c'est aussi le fait, la mobilisation, finalement, par le camp du pouvoir, à la fois de la police, hein, et puis aussi du camp gaulliste, avec l'importance notamment des comités de défense de la République, du SAC, du service d'action civique, donc là qui est plus ancien, et finalement toutes ces alliances effectivement très troubles avec l'extrême droite pro-Algérie française. Et notamment, vous avez parlé du fait qu'il y avait eu la dissolution de toutes ces organisations d'extrême gauche et en même temps l'amnistie politique pour les anciens de l'OAS, qui avait pourtant mis à feu et à sang l'Algérie en 1962. Et en même temps, le groupuscule Occident, qui est presque la principale force d'extrême droite, hein, qui a manifesté tous les jours à partir du 13 mai 68, qui regroupe plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de militants à ce moment-là, et qui a un programme vraiment d'extrême droite extrêmement dur, ne sera pas dissous parce qu'on considère qu'il n'est pas tellement subversif. Du coup, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur tous ces plans qui sont vraiment intéressants et qui sont assez méconnus en fait de mai-juin 68?
Oui, alors vous avez raison. Ça suppose d'ailleurs de revenir sur ce sur quoi De Gaulle peut prendre appui. Donc, en gros, on l'a dit, l'OAS, enfin les anciens, et donc, en effet, toute cette droite dans toute sa diversité. C'est-à-dire qu'en fait, là, De Gaulle va s'appuyer tout aussi bien sur des gens qui, encore une fois, lui en voulaient beaucoup, que sur ce que vous avez nommé les gaullistes de gauche. C'est vrai qu'à l'époque, certains peuvent s'auto-désigner de cette façon, ou alors ils parlent de gaullisme social. C'est toujours un peu compliqué avec ces étiquettes, mais c'est vrai qu'eux, ce qu'ils veulent, et c'est d'ailleurs un projet que De Gaulle avait déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, au début des années 40, il en avait parlé, c'est-à-dire l'intéressement, la participation, en fait l'association capital-travail. Donc il s'appuie sur tous ces courants, ce qui fait que dans les grandes manifestations, notamment celle du 30 mai 1968, à l'issue du discours radiodiffusé de Gaulle, où il annonce la dissolution de l'Assemblée nationale, bon, c'est une manifestation vraiment gigantesque sur les Champs-Élysées, hein, vers l'Arc de Triomphe, et en fait on entend à la fois des vives De Gaulle, mais on entend aussi des vives Pétain. On entend des choses absolument horrible, les cocos au poteau, le rouquin à Pékin, bon ça c'est à propos de Cohn-Bendit, comme si il était favorable au régime de la Chine maoïste, ce qui est quand même un gros contresens politique, mais on entend d'ailleurs au sujet de Cohn-Bendit, Cohn-Bendit à Dachau, enfin, c'est comme ça qu'on prononce, bon, voilà, donc il y a aussi ces relents à la fois germanophobes, très clairement, en ce qui concerne Cohn-Bendit, et aussi antisémites, hein, c'est clairement, enfin, donc des choses vraiment, Prévert écrira un très beau texte, poème indigné face à tout ce qu'il a entendu dans cette manifestation du 30 mai, hein, Renault au boulot notamment, enfin vraiment il parle de cris de peur bleue chez les gens qui manifestent, mais il faut rappeler en écho à ce qu'on a dit sur jeunesse, etc., la jeunesse, est-ce qu'on peut parler de la jeunesse au singulier, bah, qu'il y a aussi quand même pas mal de jeunes gaullistes en fait, hein, qui manifestent, et puis aussi des jeunes de petits groupes d'extrême droite, donc vous avez mentionné Occident, et en effet le ministre de l'Intérieur après discussion estime que, donc ça c'est à l'époque c'est désormais Marcellin en mai, en juin pardon, Raymond Marcellin, et que non, mais Occident ne trouble pas l'ordre public, hein. Alors même que tous les rapports des renseignements généraux montrent l'extrême virulence d'Occident, hein. C'est d'ailleurs, ils avaient incendié un local de l'UNEF à la Sorbonne début mai, etc. Mais il peut aussi ce pouvoir s'appuyer sur, on l'a dit, le PC, mais là je voudrais revenir sur une dimension plus directement géopolitique, parce que vous avez parlé de Khrouchtchev tout à l'heure, et donc De Gaulle, en fait, il avait reçu Khrouchtchev en grande pompe en 1960, et De Gaulle représente aussi pour Moscou un facteur de stabilité, en fait, à l'échelle de cette guerre froide dans sa phase de coexistence pacifique. Donc il s'agit aussi de ne pas troubler l'ordre du côté de cette France, en fait, qui convient très bien à Moscou dans son rapport de force avec les États-Unis, avec la relative indépendance de Gaulle par rapport aux États-Unis, par rapport à l'OTAN. Et donc je crois aussi qu'il faut avoir ça en tête pour comprendre que De Gaulle, à un moment... saisi, qu'il peut être rassuré de tous côtés. Il a de nouveau, et le moment décisif, c'est vraiment fin mai, début juin, il a à nouveau toutes les cartes en main. Et la preuve en est aussi que, tout à l'heure, j'évoquais donc cette répression féroce qui nous amène aussi à parler de la police, enfin, c'est-à-dire à quel point, enfin, les forces de l'ordre sont toutes très déstabilisées par ce qui se passe. Beaucoup disent, mais on n'a jamais vu ça, puis on n'est pas assez équipé, puis en fait, on n'est pas assez formé, puis on n'a pas les moyens humains et matériels de faire face à cette spontanéité, à cette habileté des manifestants, voilà. Mais en même temps, il y a quand même aussi, même si c'est difficile de parler de la police en général, parce que c'est pas du tout la même chose d'être un CRS, un garde mobile, ou un policier municipal. Il y a aussi donc des violences policières qui sont réelles. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les archives de la police et aussi les archives des renseignements généraux d'ailleurs pour voir comment elles s'organisaient. Et donc en fait, quand les forces de l'ordre sont à l'origine de la mort de Gilles Totin, de Pierre Bello et d'Henri Blanchet le 10 juin et le 11 juin, par exemple, la CGT appelle pour Sochaux, donc pour Bello et Blanchet, à une heure de débrayage. Là où le travail a repris, juste une heure de débrayage. Donc, le pouvoir, il est bien conscient de ça. Le fait que, du côté notamment de certaines forces syndicales, on n'est pas prêt du tout à relancer la grève, alors même que deux ouvriers sont morts, en pleine usine, puis aussi un jeune lycéen.
Oui, ça c'est vraiment intéressant, que finalement, d'un côté, le Parti communiste français est décrit comme finalement la force menaçante, même si c'est vrai que dans la critique de De Gaulle, de la menace du communisme totalitaire, il y a également une critique de la Chine maoïste. Donc c'est pas forcément que dirigé contre l'URSS. Enfin, le fait que finalement De Gaulle arrange relativement bien l'URSS parce qu'il est relativement indépendant des Américains va faire que jusqu'à aujourd'hui, dans certains milieux stalinien ou conspirationniste, va y avoir l'idée que finalement mai 68 était une sorte de complot de la CIA, une idée assez étrange. Et c'est là où on voit que dans l'imaginaire politique du côté du pouvoir, ou du côté des contre-révolutionnaires, jusqu'à certains staliniens du coup, il y a quand même une dimension, un imaginaire très conspirationniste en fait en 68 qui tient à la fois de la rhétorique et de la peur réelle, avec toute la dénonciation de l'anarchie, du complot maoïste, et avec toute une confusion un peu au niveau des idéologies où finalement on mélange tout, une espèce de paranoïa qui va, et ça c'est un aspect très amusant en fait du livre, toute la partie sur la police politique et notamment le fait qu'on va mobiliser quasiment l'armée jusqu'en Creuse pour essayer de trouver Daniel Cohn-Bendit à partir du moment où il est expulsé du territoire. Et d'ailleurs là-dessus on peut rappeler que il y avait ce slogan de manifestation « Nous sommes tous des juifs allemands » qui montrait bien que dans les années 60, au moment de 68, il y a une conscience aussi du problème de l'antisémitisme et une forme d'internationalisme qui est évidemment extrêmement, extrêmement importante dans ces années-là. Et finalement, le discours du pouvoir joue à la fois sur la peur, la paranoïa, la théorie du complot, et d'un autre côté, sur certains aspects, sur l'idée que eux sont plus révolutionnaires finalement que les révolutionnaires. Donc il y a des jeunes qui font des tracts, la révolution avec De Gaulle. Finalement, il y a aussi une espèce de récupération et qu'on va retrouver en fait dans tout le grand récit du pouvoir depuis jusqu'à aujourd'hui. De finalement, mai 68, c'était chouette parce que ça a permis une restructuration, une modernisation de la société française.
enfin une manière de récupérer l'événement, le dépolitisant complètement, alors même que sur le moment, et peut-être que le pouvoir d'une certaine manière a surestimé le danger, sur le moment il y a quand même vraiment une inquiétude que ça peut virer à la révolution, d'où peut-être la dureté de la violence policière, et aussi de l'aspect police-politique, c'est-à-dire qu'on va se mettre à ficher beaucoup de gens quand même. Voilà, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces points, peut-être avant de passer à la troisième partie de l'émission?
Mais oui, mais c'est vrai que du coup, ça nous invite à mesurer à nouveau l'ampleur du mouvement, et du coup, là, non seulement la surprise, mais la grande peur du pouvoir et la grande peur, de manière générale, des possédants aussi. Hein. Enfin, on n'a jamais vu ça. Voilà, tout à coup, le pays tout entier est paralysé par la grève, les occupations, par la prise de parole, par tout ça. Donc évidemment, le pouvoir, il cherche à trouver non pas seulement des boucs émissaires, mais des instigateurs. Il dit, c'est pas possible, d'où ça vient, enfin, et c'est vrai que cette manière de se focaliser sur Cohn-Bendit, elle m'a complètement fascinée quand j'ai travaillé sur les archives des préfets, notamment. Tous les préfets reçoivent des consignes extrêmement strictes pour traquer Cohn-Bendit. Donc vous avez mentionné cet exemple de la Creuse, où en effet, on envoie des pelotons de gendarmerie pour fouiller un vieux moulin abandonné parce qu'on croit que Cohn-Bendit s'y est réfugié. Bon, enfin, et puis surtout, par exemple, c'est encore plus frappant parce que ça nous dit les priorités finalement du pouvoir à un moment, c'est que les patrons de l'Est de la France, notamment du côté de la Lorraine, à un moment, font appel aux préfets, au pluriel, aux différents préfets, pour qu'ils envoient des forces de l'ordre pour lever les piquets de grève. Et certains préfets répondent « Ah ben non, mais désolé, on n'a plus personne à vous envoyer parce que tout le monde et toutes nos forces sont mobilisées à la frontière ou au cas où l'individu Cohn-Bendit tenterait de la franchir à nouveau puisqu'il a été expulsé et interdit d'accès au territoire français. » Et puis bon, finalement, il arrive quand même de manière clandestine à réapparaître et apparaître en plus en plein Paris, en plein quartier latin, en pleine cour de la Sorbonne. Mais c'est vrai que et là, le pouvoir, enfin, les deux têtes de l'exécutif, Pompidou et De Gaulle, Pompidou lui aussi il est persuadé que c'est un complot, un Mahomiti, c'est pas trop, enfin, on sait pas, mais voilà. Mais en fait, ils sont récusés par les rapports des RG, en fait, les rapports des renseignements généraux qui disent assez clairement, bah non, il n'y a pas de main manipulatrice comme ça qui viendrait de l'étranger. Mais c'est dingue parce qu'ils en sont amenés même c'est Jacques Faucard, qui est un proche conseiller de Gaulle à l'Élysée, qui n'est pas seulement son monsieur Afrique, qui diligente une enquête de la DST, donc des services secrets, sur le patron de Renault, le PDG de Renault, Pierre Dreyfus, parce qu'ils sont persuadés que c'est lui qui rédige les tracts de la CGT, quoi, que c'est un gauchiste qui veut contribuer à renverser le pouvoir et faire partie d'un futur gouvernement, pourquoi pas Mendès France, enfin voilà. Et donc, donc les services eux-mêmes disent que c'est une mission quand même très très délicate, parce que bon, bah, Renault, c'est quand même la vitrine des entreprises nationalisées, etc. Et donc, c'est vraiment très très compliqué. Mais c'est à la fois un peu croustillant, parce que j'essaie de rendre compte de tout ça, de ces rapports-là, de ces enquêtes, et en même temps, c'est très significatif d'un pouvoir aux abois.
Oui, et ce pouvoir aux abois, du coup, il va mobiliser l'idée de le spectre de la guerre civile, du rationnement, de l'anarchie, de l'arrivée du communisme totalitaire, pour mobiliser toutes les forces possibles. Et inviter les gens à participer de quelque manière que ce soit à la défense, entre guillemets, de la Ve République.
Oui, et vous avez eu raison de mettre en évidence le rôle des CDR. Là aussi, c'est Jacques Faucard qui les impulse, donc les CDR, les comités de défense de la République, parce que Faucard se dit, bon, le sac, c'est pas pour tout le monde, quoi. Il n'y a pas des dizaines de milliers de personnes qui vont rejoindre le sac dont on sait, dont on connaît les méthodes un peu de barbouze, quoi, en gros. Alors que les comités de défense de la République fleurissent un peu partout en France. Il y a des lâchers de tracts, même par avion, des CDR, des affiches, bon, qui visent vraiment, en effet, à... contre-insurrectionnel, enfin, très, très clairement. Donc, susciter des mobilisations dans de très nombreuses villes de province, des rassemblements, parce que j'ai parlé tout à l'heure de la grande manifestation des Champs-Élysées le 30 mai pour le retour à l'ordre moral, social et politique, mais des manifestations comme ça, il y en a ensuite au début du mois de juin dans différentes villes un peu partout dans le pays, autour des monuments aux morts, etc. Et avec toute la... aussi une manière de réactiver le souvenir de la Deuxième Guerre mondiale. Quoi. En gros, c'est ils ne passeront pas. Quoi. C'est un peu, voilà, on a résisté face aux nazis, on résistera face à ces forces, y compris étrangères. Et c'est là que le rôle de Cohn-Bendit est à nouveau remis sur la table. Parce que, voilà, qu'est-ce que c'est que cet anarchiste allemand, comme disait Georges Marchais, mais en plus, la droite et l'extrême droite parlaient clairement d'un juif voilà, qui aurait une influence supposément manipulatrice, etc. Donc, c'est, voilà, les CDR sont extrêmement bien organisés. Il y a quand même des dizaines de milliers de personnes qui rejoignent ces CDR. Et puis, vous l'avez dit, c'est vrai qu'ils sont prêts à tout, hein, et notamment ça c'est l'UJP, l'Union des Jeunesses Populaires, donc gaulistes, qui n'hésite pas à dire oui, bon, vous voulez faire la révolution, mais oui, la révolution, mais venez faire la révolution avec De Gaulle. Quoi.
Oui, ça c'est intéressant, tout cet aspect de. Finalement, où les affects jouent un rôle très important, on a parlé de la peur, ce sont d'autres affects dont on va parler dans la troisième partie de notre émission, plutôt les affects du coup révolutionnaires, joyeux, par rapport à ces affects plutôt de l'ordre de la peur, de la paranoïa, de l'indignation face à la profanation des symboles nationaux, etc. Donc on va faire une pause musicale avant de passer à la troisième partie de notre émission.
Et l'on s'aimait, et c'était mai, et l'on s'aimait. Et c'était mai 68. Et c'était mai, et l'on s'aimait, et c'était mai, et l'on s'aimait. Et c'était mai 68. On a lancé des pavés sur la gueule des flics. C'était mai et l'on s'aimait, c'était mai et l'on s'aimait. Et c'était mai 68. Et c'était mai et l'on s'aimait, c'était mai et l'on s'aimait. Et c'était mai 68. La zizanie anime nos mines et nos usines. Stoppez, 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 stoppez. Mais stop, les, ça dure, c'est l'aventure qui entre dans nos murs. Liberté, liberté, libère-toi, libère. Et c'était mai 68. C'était mai et l'on s'aimait. C'était mai et l'on s'aimait. Et c'était mai 68. Mai 68. Les grèves les plus brèves sont toujours les meilleures. Chantez, 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 déchantez. Remettez ce tigre dans votre moteur. Ce n'était rien que des mots. s'aimait, c'est toujours mai et l'on s'aimait. C'est encore mai 68, mai 68. C'est encore mai et l'on s'aimait, c'est toujours mai et l'on s'aimait. C'est encore mai 68, toujours mai 68. Encore, prenez vos désirs pour des réalités. Désir, 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 désirez mai 68. Encore mai 68.
Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui aux événements de mai-juin 1968. Et pour en parler, nous sommes avec Ludivine Bantigny, autrice de 1968, de Grand Soir en Petit Matin, paru aux éditions du Seuil en 2018, ouvrage qui forme la trame donc de notre émission. Et donc nous allons parler en cette troisième partie, pour commencer, de la troisième partie de ce livre qui s'intitule « L'expérience sensible du politique » et qui parle justement du rôle des affects, des sentiments, des émotions dans l'événement 68 et qui est une dimension souvent qui n'est pas trop évoquée par les historiens et les historiennes puisqu'évidemment c'est toujours quelque chose bon, qui ne transparaît pas forcément dans les rapports de police ou dans les archives officielles. Et d'autre part aussi parce que, comme vous le rappelez, les protagonistes sont eux-mêmes un peu rétifs justement à laisser transparaître ces émotions. Donc à part certains poètes ou certains graffitis, ou parce qu'il y a notamment voilà, une espèce d'éthos viril, guerrier, qui voilà, mobilise beaucoup la notion du sacrifice, de la révolution, et qui laisse pas tellement transparaître toute cette dimension sensible qui pourtant a été très importante en 68.
C'est vrai, donc sur ce que vous dites, sur une espèce de virilisme qui exigerait qu'on taise ses émotions, mais en même temps, on voit quand même qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, il y a aussi cette capacité à exprimer, parce que ce virilisme, on le voit par exemple dans les services d'ordre, les organisations syndicales ou politiques, puis dans les organisations politiques qui se revendiquent notamment la perspective révolutionnaire. C'est vrai qu'on n'est pas encore forcément très sensible justement à la question des émotions révolutionnaires, c'est beaucoup moins... Désormais, on s'y intéresse davantage et peut-être que 68 a été aussi un accélérateur de cette prise de conscience que la politique est aussi constituée d'affects et que même il ne s'agit pas d'opposer la raison aux émotions, la raison politique et les émotions sensibles. Pas du tout, puisque en fait, il y a une intelligence émotionnelle, donc le politique procède aussi d'impulsions qui sont émotionnelles, qui sont liées à des indignations, à des détestations, à des haines, à des formes aussi de joie. Et donc, c'est sûr que, bon, je pense que j'ai parlé là de que la joie demeure à propos de 68, un heureux événement aussi, parce que beaucoup expriment ce sentiment que plus rien ne sera jamais comme avant dans cette prise de parole aussi, la joie qu'il y a d'abord à arrêter l'ordinaire des choses et du temps, à se sentir dans un temps beaucoup plus dense, beaucoup plus intense, un temps vraiment au sens strict extraordinaire. Le philosophe Henri Lefebvre, dont on parlait tout à l'heure, a dit à ce moment-là, le temps ravivé scintille. Voilà, le temps ravivé scintille, c'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment d'avoir un présent d'une extrême densité, mais aussi de faire l'histoire. Il y a une conscience historique, voilà. Il y a conscience qu'un événement est bien à l'œuvre. Et donc, dès lors, on s'appuie aussi beaucoup sur les expériences du passé. C'est ça aussi l'expérience sensible du politique, c'est essayer de faire revivre le passé, non pas à titre de référence figée, morte, à commémorer, mais vraiment comme des expériences qui restent vivantes. Hein. C'est le passé dans le présent. Par exemple, on se réfère beaucoup à la Commune de Paris. Et ça, c'est très exaltant, c'est enthousiasmant, l'idée qu'on va reprendre finalement le flambeau des morts. Il y a des formules comme ça chez Hugo, notamment que les morts continuent à être présents dans les luttes du présent. Justement, la présence des morts, c'est aussi très important. Et donc, se référer à la Commune, se référer au Front populaire, se référer à certains égards aussi à la résistance, ça crée cette joie-là. Mais qui n'est pas sans s'accompagner d'une anxiété aussi. C'est-à-dire, par exemple, on a conscience qu'il y a un événement, tout à fait crucial qui dans cette irruption, dans ce surgissement, et il faut être à la hauteur de l'événement. Donc il peut y avoir aussi cette angoisse de voir passer le temps comme ça, le temps file, et chaque jour suppose de s'interroger sur ce qu'il faut faire, comment on peut surmonter chaque étape de cette grève générale, comment on peut ne pas perdre la main, comment on peut faire en sorte que le pouvoir ne la reprenne pas justement la main. Donc il y a ce mélange là, et puis un mélange aussi lié au rapport femmes-hommes, parce que les femmes par exemple sont très présentes dans cette grève, participent au piquet de grève. Il y a des endroits d'ailleurs où elles sont quasiment seules à faire grève, parce que c'est par exemple soit des usines où la main-d'œuvre est essentiellement féminine, je pense notamment à des usines textiles, ou alors des chèques postaux, des magasins, etc., des employés de bureaux. Et elles sont très présentes, et en même temps, cette parole se libère et elles intériorisent aussi le fait que pendant quand même des années, des décennies, voire des siècles, la parole des femmes n'était pas du tout légitime. Donc il y a aussi parfois cette angoisse, ou en tout cas cette inquiétude à prendre cette parole. Donc il y a ce mélange d'un sentiment de libération, d'émancipation, de sortie du métro-boulot-dodo, parce que c'est vraiment une formule de cette époque, hein, de la mécanique de la vie assez aliénante, de l'ordinaire de la vie, pour trouver des formes de vie différentes. Et ça, quand même, c'est aussi couplé à des inquiétudes sur la peur, alors pas la peur que vous évoquiez tout à l'heure du côté du pouvoir ou des tenants de l'ordre conservateur, mais non seulement la peur de ne pas être à la hauteur, mais aussi la peur physique, hein, parce que s'il y a quand même une violence qui est extrêmement intense, extrêmement aiguisée, alors comme le raconte Leslie Kaplan, à la fois ouvrière à cette époque et écrivaine, elle avait vu un jour sur un mur « Je n'ai plus peur ». Voilà. Donc se libérer aussi de ses peurs, tout ça n'est pas évident, mais ça rend le moment d'autant plus intense.
Oui, ça c'est effectivement un aspect intéressant, ce rapport au temps. C'est-à-dire qui est un rapport nouveau finalement au présent, au passé et au futur. Un rapport au passé qui est plus simplement de l'ordre de la commémoration, finalement de la référence et presque l'idée que du prolongement et peut-être même que de la réalisation, hein, de l'imaginaire, de la commune. Enfin, la révolution est là et nous, on va la réaliser. C'est notamment vrai, par exemple, pour le cas de la commune. Il y a un nouveau rapport au présent, dans le sens où le présent n'est plus, comme disait Debord, une espèce de temps pseudo-cyclique. C'est-à-dire qui n'est pas cyclique au sens de le renouvellement des saisons chaque année, mais qui est pseudo-cyclique dans le sens où c'est toujours effectivement le cycle métro, boulot, dodo, et finalement une espèce de présent perpétuel, dont parle par exemple Jérôme Bacher, hein, dans un de ses derniers livres qui s'appelle justement, il me semble, « Défaire la tyrannie du présent », aux éditions La Découverte. Et il y a également un rapport différent au futur qui fait l'objet notamment de la quatrième partie de l'ouvrage, avec l'idée que tout est possible, que un monde radicalement nouveau est possible. Et c'est là l'importance de l'imaginaire et aussi de la revivification imaginaire qui était en perte de vitesse, notamment l'idée du communisme libertaire ou l'idée d'une société libérée de l'État ou l'idée d'une société qui serait intégralement autogérée, qui partirait de la base, où la décision politique et économique partirait de la base. Il y a ce nouveau rapport au futur avec toutefois quand même l'angoisse d'une part, que vous avez mentionné, de ne pas être à la hauteur des événements, et aussi l'angoisse d'une récupération, finalement, de ces imaginaires politiques. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans votre chapitre 13, qui s'appelle « Changer de base, autonomie, autogestion et émancipation ». C'est cette conscience, et qui, de mon point de vue, me semble, qui me parle beaucoup, notamment quand je pense à une brochure plus récente qui s'appelait « Contre le mythe autogestionnaire », qui montrait les limites, finalement, de l'autogestion, et que parfois cette aspiration à l'autogestion avait constitué un frein à la révolution, puisque des ouvriers, des ouvrières se retrouvaient à arrêter finalement la révolution pour autogérer leurs usines dans un cadre qui restait capitaliste. Il y avait déjà cette peur finalement que même des mots d'ordre radicaux comme l'autogestion ou l'autonomie pourrait être finalement récupéré par le pouvoir. Et effectivement, dans une certaine lecture de mai 68, qui est peut-être excessivement pessimiste et un peu téléologique, il y a cette idée que finalement, et ça c'est l'idée de Boltanski et Schiapello, que finalement 68 a permis aussi, a fourni des thèmes de renouvellement du capitalisme. Une interprétation avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais disons qu'il y avait déjà quand même cette inquiétude de la part des protagonistes de 68 d'une possible récupération, peut-être de l'imaginaire subversif qu'ils étaient en train de créer.
Oui, alors d'abord, il faut bien insister sur le fait que quand on parle d'imaginaire, et comme vous le faites, c'est bel et bien pour montrer qu'il s'agit de projets qui ne sont pas du tout conçus comme lunaires ou purement utopiques, si on ne prend pas le mot utopie dans son sérieux politique. Hein. Donc ce sont des imaginaires, mais qui parlent vraiment du présent, qui parlent vraiment de revendications immédiates et comment, justement, à la faveur de la grève, donc à la faveur de l'arrêt du travail, on peut essayer de réfléchir à une société différente, mais en partant de ce qu'on connaît. Et donc en partant de l'idée qu'une autre chose peut surgir, peut être l'émanation de ce qu'on connaît. Donc, par exemple, quand on commence à se dire, bon, alors on veut augmenter les salaires, diminuer le temps de travail, etc. Mais pour ça, bah, le patronat, il ne va pas céder tout ça comme ça. Donc il faut exiger, par exemple, ce qu'on appelle beaucoup à cette époque le contrôle ouvrier, le droit de veto des salariés sur l'embauche, sur les licenciements, sur les conditions de travail. La question aussi de l'ouverture des livres de compte pour voir un petit peu bah, où va l'argent, comment il se distribue, comment se distribuent les richesses, les profits. Pareil pour la question de la levée du secret bancaire. Donc autant de propositions de dévoilement en fait, hein, qui sont des propositions radicales au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'elles vont à la racine même du système et elles posent en fait des questions sur la façon dont on pourrait justement l'envisager tout autrement, puisqu'elles posent la question du pouvoir. Et donc ça rejoint votre interrogation sur l'autogestion parce que ça m'a beaucoup frappé, comme vous, de mesurer la lucidité des protagonistes de l'époque, qui, tout en parlant d'autogestion, pour certaines ou pour certains, se disent « attention, il y a un piège ». Il y a un piège. Si on dit autonomie des universités, mais si on n'est pas dans une grande prudence par rapport à ce que peut être ce projet d'autonomie des universités, parce que déjà, certains patrons pourraient tout à fait s'y reconnaître, c'est-à-dire, tiens, bon, oui, on va voir l'État se désengager et puis faire appel aux collectivités territoriales et au marché du travail local pour notamment financer ces universités. Hein. Donc il y a une grande vigilance à l'égard de ce mot d'ordre d'autonomie des universités. Hein. Ce n'est pas du tout pour en faire des universités en concurrence les unes avec les autres. Et puis de la même manière, sur la question d'autogestion, il y a cette semblable vigilance, puisqu'on a rappelé tout à l'heure que le pouvoir avait en tête la participation, l'intéressement, l'association capital-travail. Donc là, précisément, l'autogestion, elle doit être conçue aux yeux de ses promoteurs comme une dissociation du capital et du travail. C'est-à-dire que la véritable autogestion, c'est dans une logique qui nécessite de sortir du capital, des rapports de production fondés sur l'exploitation et fondés sur l'extorsion du profit. Donc là aussi, cette grande prudence est à l'œuvre. Et c'est, en fait, c'est, là aussi, c'est une dynamique. C'est-à-dire que, bon, bah, on avance des idées, on y réfléchit, on réfléchit à leurs applications. J'ai vu aussi, par exemple, dans des comités de quartier, comment on se met à... Voilà, on se réunit, on ne se connaissait pas, puis on se retrouve parce qu'on a du temps et parce qu'on a des espaces aussi pour se faire. Les occupations des lieux de travail ou des lieux publics, elles servent aussi à ça, hein. Donc ça produit de l'irruption de pensée et de pratique. Dans des comités de quartier, on se dit bah, « qu'est-ce qui se passerait si on supprimait la publicité ?» Si on supprimait l'idée même de la concurrence comme pivot de l'organisation des sociétés. Si on supprimait, en fait, le marché, tout simplement. Enfin, voilà, comment on pourrait concevoir une société hors du marché ? Voilà, on s'interroge sur l'héritage, sur la propriété, sur la monnaie. Donc, après, voilà, tout ne se passe pas de cette façon partout dans le pays, mais il y a ces initiatives-là. Donc, cette peur aussi de la récupération que vous avez mentionnée, j'irai pas jusqu'à dire que chez Boltanski et Schiapello, dans leur livre très important, Le Nouvel Esprit du Capitalisme, 68 aurait fourni des éléments au néolibéralisme, aux nouvelles formes de management. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire comment, en fait, ces pratiques néo-managériales vont agripper certaines choses de 68 qui n'ont rien à voir avec elle, par exemple, qui sont pas du tout individualistes, qui sont vraiment collectives et visant à l'émancipation, mais par exemple l'idée en effet qu'il faut se débarrasser des petits chefs, des hiérarchies, de la pression au travail, et donc ces pratiques néo-managériales vont dire « Ah, mais c'est ça que vous voulez ? Mais oui, mais d'accord, mais vous allez être des entrepreneurs de vous-même, en fait. Vous allez être, c'est vous comme individu qui allez être dans la performance, vous avez raison, on va supprimer tous ces niveaux de la hiérarchie, etc. » Mais c'est pas 68 qui fournit ça clé en main, c'est vraiment des formes de récupération et, enfin, qui font dévier les projets de l'époque.
Oui, oui, bien sûr. En fait, finalement, il y a une récupération du vocabulaire, oui. Comme dans Nike, « Fais ta révolution ». Mais évidemment, il n'y a jamais de récupération de la substance de la critique. Et par rapport à justement cette lucidité critique, on peut rappeler, on n'a pas tellement parlé finalement du tout début, hein, des premiers jours de mai, et puis finalement du mouvement du 22 mars, hein, puisqu'évidemment 68, alors dans l'histoire canonique qui a largement exagéré peut-être le rôle de Nanterre, mais disons que dans cette histoire canonique, le mouvement du 22 mars a joué un rôle important. Et dès ce moment du mouvement du 22 mars, il y a déjà une critique faite notamment par les enragés du mot d'ordre d'autonomie des universités en disant mais le problème, c'est l'université elle-même parce qu'elle présuppose une division entre professeurs et étudiants, qu'elle sert à reproduire la société capitaliste, etc. Et c'est des thèmes qu'on va retrouver dans notamment le groupe de réflexion de Sanzier. Avec l'idée qu'il faut dépasser toutes ces oppositions entre intellectuel et manuel, entre travail et loisir. Et aussi, et ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant de lire votre livre, aussi en essayant de dépasser l'opposition entre la masculinité et la féminité. Et du coup, c'est quelque chose peut-être sur lequel il faudrait revenir. C'est-à-dire qu'en général, on dit bien dans l'histoire du féminisme que 68 a été un moment important, mais finalement... qu'on résume principalement au fait que le groupe FMA, Féminin, Masculin, Avenir, qui est devenu ensuite, par la radicalisation entraînée par 68, Féminisme, Marxisme, Action, donc un mot d'ordre beaucoup plus radical, dans lequel on trouvait notamment Jacqueline Feldman et Christine Delphi, vont organiser une conférence débat le 6 mai, il me semble, avec un tract qui dit... étudiant, tu remets en cause les hiérarchies, mais as-tu pensé à remettre en cause les rapports hommes-femmes? Et étudiante, tu participes au mouvement, mais formule et définis tes propres revendications. Mais donc, à part ça, qu'est-ce qu'on peut dire vraiment sur cette question du genre, du féminisme et des femmes en 68?
Je pense qu'on peut dire que 68 n'a pas été un moment féministe, mais qu'il a aidé considérablement au déploiement des féminismes dits de la deuxième vague à partir de 1970 essentiellement. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, les femmes ont eu un rôle tout à fait considérable en 1968. J'ai essayé de le dire trop rapidement tout à l'heure avec leur participation très intense à la grève, aux piquets de grève, aux occupations, elles organisent des sit-ins, etc. Mais en même temps, il y a un paradoxe de 68 à cet égard, qui est lié à la reconduction des rôles de genre, bien sûr, qui est vraiment multiséculaire. Parce que, par exemple, tous les leaders de 68 sont des hommes. Mais non seulement ils sont des hommes, mais ils ne se posent pas du tout cette question d'être des hommes. Il y a une sorte d'invisibilité ou d'impensé, encore plus précisément un impensé, de cette forme de domination masculine incontestée. Et donc c'est vrai que certaines femmes vont en avoir conscience dès ce moment-là, mais elles sont encore assez peu nombreuses, en tout cas à l'exprimer comme telles et à le faire publiquement. J'ai trouvé quelques traces, mais c'est vrai qu'elles sont assez rares, par exemple à Sciences Po, parce que Sciences Po, Paris, même si c'est une institution de l'élite par excellence du monde étudiant, mais il y a des occupations et un mouvement très important. Et donc il y a des étudiantes en fait, qui disent « on fait grève, on participe à la grève, on va commencer d'ailleurs par faire la grève de la vaisselle et des sandwichs, on va rompre le monopole de la confection des sandwichs qui nous est attribué ». Donc avec aussi beaucoup d'humour, le rire de 68, qui est à l'œuvre ici. Mais donc certaines femmes vont l'exprimer, mais ressentir aussi cette contradiction. Pourquoi est-ce qu'en fait on met à bas toutes les dominations aussi les clivages que vous évoquiez. Par exemple, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde de la médecine. On interroge le clivage médecin-patient, etc. Mais pas assez le rapport femme-homme. Et donc cette contradiction à l'œuvre en 68 va être aussi un catalyseur du mouvement qui va suivre avec la prise de conscience qu'il faut aussi pouvoir se réunir entre femmes. Et d'où ce passage, par exemple, dans le sigle du FMA, féminin, masculin, avenir, à féminisme, marxisme, action, c'est-à-dire que bon, il va y avoir aussi des groupes non mixtes qui se constituent dans le sillage de 68, mais en raison même de ce qui s'est passé en 68, c'est-à-dire, bah oui, nous les femmes, on nous a pas vraiment donné la parole, ou on ne l'a pas suffisamment prise. Les femmes ont été essentiellement des allégories dans la représentation de 68. Qu'on songe au porte-drapeau, les femmes comme Caroline de Bendern, cette jeune femme qu'on voit avec un drapeau déployé sur les épaules de Jean-Jacques Lebel dans des photographies célèbres. Et voilà, les femmes ne sont pas que des allégories et elles sont là pour prendre la parole aussi. Et donc, la non-mixité, se réunir par moment, c'est pas une finalité la non-mixité, mais se réunir par moment entre femmes, ça permet de prendre confiance en soi, d'aborder aussi des sujets qu'on n'a pas la possibilité d'évoquer quand on est en présence des hommes, et puis on va arrêter de se faire couper la parole par les hommes, etc. Et donc il y a une sorte de capacité d'agir, là, une force qui se déploie dans le sillage de 68, mais aussi en tension avec 68.
Oui, ça c'est effectivement... très intéressant. Il y a pas mal d'exemples qui sont peu connus de ce sexisme finalement des gauchistes, et là ça va jusqu'au situationniste, puisque notamment dans ton chapitre consacré sur ce sujet, tu parles des comics, des bandes dessinées détournées des situationnistes. Effectivement, moi, un aspect qui m'avait toujours frappé et choqué, c'était le fait que à la fois il y avait une critique de la réification, de l'objectification, de la chosification des individus par le capitalisme et notamment par la publicité. Et en même temps, le situationnisme reprenait d'une manière finalement assez peu critique, finalement, ces stéréotypes lorsqu'ils s'appliquaient aux femmes, reconduisant l'objectification du capitalisme et du patriarcat dans ces fameuses bandes dessinées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va traverser aussi les groupes pro-situationniste après dans les années 70, c'est-à-dire la reconduction d'une espèce de culture très machiste où finalement la femme qui est là pour admirer le grand théoricien qui en plus fait bien l'amour, il y a vraiment finalement une division genrée extrêmement forte dans ces représentations situationnistes et qui sont peut-être moins apparentes parce que la question de la sexualité est moins abordée de manière frontale dans les groupes gauchistes, d'extrême gauche, maoïstes, etc., mais qui finalement va se retrouver, notamment matériellement, par la monopolisation masculine de la parole, là où les assemblées de 68 tranchent moins, disons, même s'il y a des femmes qui vont prendre la parole, mais disons que ça tranche moins avec le cours ordinaire des choses, avec le fait que les femmes vont se retrouver quand même beaucoup à gérer les cantines, le ravitaillement des usines en grève, les crèches, etc. Contrairement, par exemple, tu donnes l'exemple en Allemagne, où dans les mouvements de contestation, il y a quand même cette conscience d'une nécessité de renverser ce genre de rôle genré qui est plus forte. Et puis aussi, c'est quelque chose d'intéressant, c'est le témoignage du harcèlement qui a pu exister dans certaines assemblées où on met des mains en fesses et tout ça. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de vraiment très intéressant dans ton récit de 68. C'est des choses, effectivement, qui ne sont pas forcément tellement abordées que ça dans les ouvrages sur 68 ou même dans les histoires du féminisme.
Oui, c'est vraiment les sources, les archives là, qui permettent de faire surgir toutes ces contradictions et cette part du sexisme. Et en effet, le choc qu'éprouvent certaines femmes à voir que même dans une université, un théâtre ou une usine occupée, on se retrouve à devoir s'affronter à des gestes déplacés ou des paroles déplacées ou tout simplement cette mise en cause de la présence des femmes qui sont toujours assignés aux mêmes fonctions, en effet, de tâches ménagères. Et c'est vrai qu'on le voit aussi bien du côté du Parti communiste français, qui n'hésite pas à sortir une brochure en plein mai 68, c'est un bulletin d'adhésion qui célèbre la fête des mères. Donc, il voit vraiment surtout les femmes comme des mères, comme des ménagères, ou des épouses, en fait. Elles sont surtout présentées comme les femmes des grévistes, donc qui sont amenées à soutenir leur mari, comme si elles-mêmes, elles n'étaient pas en grève, alors qu'elles le sont très, très largement. Mais c'est vrai aussi des situationnistes, c'est vraiment une butée, quoi. Je sais pas, il y a un obstacle dans la pensée qui est quand même assez fascinant, parce que les situationnistes interrogent toutes les modalités même de cette réification, et pour autant présentent les corps des femmes, qui sont des bombes sexuelles en fait dans ces publicités ou dans ces comics détournés, vraiment comme des objets passifs de sexualité, et pas du tout comme des corps agissants et politiques.
Oui, et c'est là finalement qu'on voit la limite finalement de cette révolution sexuelle dont on a beaucoup parlé à propos de 68, c'est-à-dire que finalement ça restait une révolution sexuelle, ça le sera moins dans les années suivantes, mais une révolution sexuelle quand même largement encore androcentrée, centrée sur la sexualité masculine, et où finalement une grande partie des codes et de l'imaginaire sexuel dominant patriarcal était finalement reconduit avec simplement une idée de la critique de la monogamie et de la famille, mais qui n'allait pas jusqu'à une remise en cause de la domination masculine dans les rapports sexuels, une prise en compte du désir des femmes, etc. etc.
Oui, d'ailleurs, c'est encore un peu trop péremptoire de parler de révolution sexuelle pour 68 même, d'ailleurs, hein, parce que la question est assez peu posée. Hein, c'est un autre des sujets impensés de 68, parce qu'à part quelques groupes, comme justement le groupe de Censier, qui d'ailleurs s'appelle, c'est un peu ironique aujourd'hui, mais ça s'appelle Nous sommes en marche, un groupe qui s'appelle Nous sommes en marche, donc essentiellement influencé par les situationnistes, bon, qui pose justement la question de la révolution sexuelle, qui ne doit pas être une révolution de l'érotisme sur papier glacé, qui serait à nouveau un marché, en fait, hein, qui conviendrait très bien au capitalisme. Mais il n'y a pas véritablement cet enjeu qui est posé. Donc on verra seulement dans les années qui vont suivre.
Et alors, justement, pour parler des années qui vont suivre, enfin, plutôt principalement de l'année qui va suivre, qu'est-ce qu'on peut dire, et ça forme l'épilogue de ton livre, qu'est-ce qu'on peut dire sur... finalement le reflux un petit peu de 68, on en a déjà donné un peu les ingrédients, notamment finalement le fait que les principales forces politiques de gauche vont se rallier finalement à l'idée de que tout va se déterminer dans les élections, qu'en attendant il faut reprendre le travail. Comment est-ce que finalement 68 va finir, avant peut-être d'aborder la question de comment est-ce que 68 a quand même perduré au cours des années suivantes, Qu'est-ce qu'elle constitue comme héritage aujourd'hui, comme référence, comment est-ce qu'elle a transformé la vie des gens qui l'ont vécu?
Il y a un clivage d'interprétation qui n'est pas seulement un clivage a posteriori, hein, mais dès l'événement lui-même, dès la clôture de l'événement. C'est-à-dire que il y a le clivage dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, notamment entre le Parti communiste d'une part et les groupes, alors que moi je n'aimerais pas trop appeler gauchiste, parce qu'en fait gauchisme c'est déjà dans une certaine mesure un terme disqualifiant, enfin, et c'est le Parti communiste qui va parler essentiellement des gauchistes, mais après certains vont pouvoir éventuellement le reprendre à leur compte, mais bref, des organisations en fait qui se réclament de la révolution, hein. Ce clivage-là qu'on retrouve aussi dans une autre mesure, hein, c'est pas tout à fait le même, mais entre la CGT et la CFDT, c'est un clivage d'interprétation sur est-ce qu'on a gagné ou est-ce qu'on a perdu, en fait. Et bon, par exemple pour la CGT, le Parti communiste, c'est quand même une victoire. Il y a les acquis nés de Grenelle, l'augmentation massive du SMIG, des salaires, la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise. Mais pour beaucoup, non, c'est pas du tout suffisant. C'est pas du tout à la hauteur de la grève générale, des occupations, du blocage de tout le pays. Donc il y a aussi beaucoup d'amertume, de ressentiment, de difficulté à reprendre le travail, comme on le voit de manière très poignante et magnifique dans le film, le petit film des étudiants de l'IDEC qui s'appelle La reprise du travail aux usines vont secondaire, on voit cette jeune femme, une ouvrière de ces usines à Saint-Ouen, on saura plus tard qu'elle s'appelle Jocelyne, mais on n'en sait pas davantage, qui crie et qui pleure, et qui dit « je ne rentrerai pas dans cette tôle », et qui dit qu'on est dégueulasse dans cette tôle, enfin, au sens où on est sale, il y a des produits extrêmement toxiques, voilà. Et cette femme, pour moi, est vraiment l'incarnation de 68 aussi dans ses tensions, et justement dans la difficulté aussi à accepter qu'on puisse reprendre dans de telles conditions. Finalement, on reprend aussi, on se remet sur les rails de la politique politicienne, de la voie électorale, ce qui n'est vraiment pas du goût de tout le monde. Donc il y a une interrogation aussi sur les limites des acquis de Grenelle, et notamment les limites de ces augmentations de salaire, parce que même si elles sont considérables, en particulier pour le SMIC, hein, parce que sinon les autres augmentations de salaire, finalement, elles étaient prévues, hein, donc il y avait juste une accélération de ce qui était prévu, mais c'est pas l'essentiel, d'autant que les journées de grève ne sont pas payées, et que dans bien des endroits, ça j'essaie de le montrer aussi dans l'épilogue, à partir des sources des entreprises, des archives du monde du travail, entre autres, il y a dans bien des endroits, le patronat exige des heures supplémentaires non payées pour rattraper les journées supposément perdues par la grève. Il faut vraiment payer la grève. Le patronat essaie de faire payer la grève dans tous les sens du terme, et notamment en accélérant encore les cadences. Hein. C'est ça le paradoxe de 68, c'est que finalement, beaucoup protestaient contre l'intensité des cadences, mais elles vont encore s'aiguiser après mai-juin, parce que le patronat est à certains endroits vraiment implacable sur ces questions, donc non paiement des jours de grève, et y compris sur l'augmentation des salaires. Beaucoup se disent mais l'inflation va balayer quand même tout ça, et c'est ce qu'on voit assez rapidement dès la fin de l'été 68 avec des augmentations tarifaires un peu partout. Bon. Donc il y a vraiment ce clivage là, et parfois le sentiment que il faut pas en rester là. Mais au-delà, ce qui est certain, c'est que quand même le rapport de force s'est modifié, et on va le voir dans les années suivantes. C'est-à-dire que même si, bon, ben voilà, il y a les élections, et puis finalement c'est une victoire des gaullistes. Alors, une victoire qu'il s'agit aussi de relativiser dans ses résultats, parce qu'on a beaucoup parlé d'une victoire écrasante de la droite. C'est faux, parce que c'est une victoire en termes de nombre de sièges. En effet, il y a plus de 80% des sièges qui reviennent à la droite, ou aux droites dans leur pluralité. Mais en fait, sortie des urnes en pourcentage des voix, c'est à peine 50% en fait. Donc ça, c'est aussi la question du suffrage, du mode de scrutin uninominal, avec aussi des découpages de circonscriptions qui permettent des petits arrangements de ce point de vue. Mais il est certain que c'est aussi une défaite pour les gauches, et en particulier pour le Parti communiste français, qui perd pas moins de 600 000 voix entre 67 et 68, hein, les deux élections législatives. Mais au-delà, il y a quand même un rapport de force qui se modifie, parce que dans les entreprises qui ont fait grève, à certains endroits, le patronat n'en mène pas large, qu'il va devoir aussi faire d'autres concessions, d'autres augmentations de salaire, des diminutions du temps de travail, des réaménagements aussi des cadences. C'est ça qu'on va voir tout au long de la décennie qui suit. Aussi parce que 68 n'est pas refermé, au sens où il y a toujours de la conflictualité sociale. Ça a donné des forces, ça a donné du courage, ça a donné de l'énergie, le fait de retrouver de la dignité dans les grèves, le fait de relever la tête. Donc ça a donné confiance aussi. Et dès lors, c'est vrai que toutes les années qui vont suivre, jusqu'à plusieurs moments de basculement, aussi bien la crise de 73-74 que la dernière grande grève de la période 79, notamment dans le secteur de la sidérurgie, on est quand même dans une décennie de très forte conflictualité liée à 68, et qui veut aussi en prolonger l'héritage.
Oui, c'est sûr que on voit que jusqu'à 79-80, 80 formant d'une certaine manière la liquidation institutionnelle de 68, finalement, par la récupération de son mot d'ordre, notamment changer la vie, qui est complètement vidé de son contenu, et qui va amener sur la grande décennie un peu de dépression, entre guillemets, des luttes sociales des années 80. Malgré tout, 68 a profondément marqué la société française des années 70, qui a été une société traversée de nombreux conflits, de mobilisations féministes, homosexuelles, ouvrières, immigrées, etc., dont on a parlé par ailleurs dans d'autres émissions. Et en même temps, jusqu'à aujourd'hui, même si évidemment la dynamique s'est arrêtée, hein, disons matériellement dans les années 80, jusqu'à aujourd'hui, ça a eu des impacts,
à la fois sur le plan des trajectoires individuelles, comme l'a montré par exemple Julie Pagis dans son ouvrage Un pavé dans leur histoire. Voilà, évidemment, 68, c'est un moment de transformation des subjectivités, et les gens qui ont été marqués par 68 vont, d'une certaine manière, même s'ils vont devoir vivre dans une société capitaliste, en transformation, mais pas forcément dans le bon sens, pas forcément dans un sens révolutionnaire, et bien malgré tout, ils vont chercher, ça va influencer leur vie, la manière de conduire leur existence. Et puis d'autre part, il y a aussi le fait que 68 reste aujourd'hui peut-être la plus grande référence historique en termes d'histoire des luttes, parce que 36 ou la Commune, bon, ça paraît très loin et ça paraît une société qui n'a rien à voir avec la nôtre, la Révolution française encore moins, et les mouvements plus récents se sont soldés beaucoup par des défaites ou par des victoires très relatives comme en 95. Donc est-ce qu'on peut simplement, du coup, en conclusion, revenir un peu sur ces deux aspects, la transformation subjective qui perdure au-delà du moment 68, notamment qui transparaît dans tous les entretiens que les historiens et les historiennes ont pu mener avec les protagonistes de 68, notamment les protagonistes ordinaires, ceux qui n'ont pas retourné leur veste, comme Daniel Cohn-Bendit, qui n'ont pas fait de leur ancien statut de 68-art un moyen de valorisation politique dans le champ bourgeois, notamment, la question de cette référence historique toujours très importante aujourd'hui.
L'ouvrage de Julie Pagis, Mai 68, un pavé dans leur histoire, est tout à fait essentiel parce que donc c'est un ouvrage de sociologie politique. À partir d'un travail de terrain, elle permet de montrer que, contrairement à cette représentation absolument écrasante, absolument dénigrante de 68, qui s'appuie en particulier sur ces figures politiques et médiatiques, des gens très installés, des gens au pouvoir, qu'il s'agisse du pouvoir politique ou du pouvoir des médias notamment, dont Cohn-Bendit est en effet l'incarnation principale, mais il y en aurait d'autres à citer, pas forcément la peine de le faire, mais contrairement à cette image, eh bien, la plupart des protagonistes de la contestation de 68 et de la grève générale ont garder un attachement à ces valeurs, avec des déplacements évidemment, avec des manières de reconvertir leurs engagements en termes professionnels, en termes associatifs, en termes syndicaux ou politiques, mais sont restés fidèles en fait à ces convictions-là et n'ont pas renié ce passé, mais ont continué à le nourrir au présent avec des manières extrêmement diverses de le faire. Ça c'est pour le premier point. Puis le deuxième point, je pense qu'on peut parler finalement de révolution anthropologique née de 68. C'est vrai que 68 n'a pas été une révolution, même si beaucoup l'espéraient à cette époque. L'imaginaire révolutionnaire a été véritablement réactivé en 68. Bon, il n'y a pas eu de révolution institutionnelle, politique, il n'y a pas eu de révolution économique, on le saurait, on est toujours bel et bien dans le capitalisme, dans une forme d'ailleurs d'apogée du capitalisme avec dans sa phase néolibérale. Et pourtant, c'est quand même une révolution anthropologique au sens où tellement de choses ont changé par et grâce à 68 qu'on en est finalement toutes et tous les héritières et les héritiers. Je pense qu'il y a une dette, alors c'est une dette qui n'est pas à prendre comme un fardeau, mais c'est vraiment une dette au sens où, bien sûr, que la manière dont on agit, dont on parle, nos corps, nos sexualités, nos relations sociales, les relations humaines ont quand même été très largement marquées par l'effet de 68, par quand même cet effet de libération et des émancipation, notamment parce que ces luttes ont continué, même si elles sont toujours à remettre sur le métier, mais elles ont été essentielles dans la prise de conscience que rien ne pouvait plus être tout à fait comme avant, et c'est le cas. C'est-à-dire que désormais, dans bien des domaines, la question du pouvoir est interrogée, la question des hiérarchies, la question de l'autorité, et finalement, on est dans une période c'est intéressante à cet égard, parce que finalement, il y a une double référence qui est utilisée aujourd'hui, Révolution française et 68, qui pose des questions du pouvoir, qui pose la question d'une autre forme de démocratie, qui interroge aussi la supposée représentativité des représentants, qui ne semble plus représenter véritablement les gens. Donc cette conscience-là, finalement, c'est une sorte de réactivation de 68.
Oui, c'est intéressant de finir là-dessus, sur le fait que finalement, 68 a ouvert énormément de possibles, a énormément de remises en cause aussi de l'ordre social. On en a parlé de pas mal, notamment de l'ordre social genré, par exemple, même s'il en a été que, voilà, que le prélude. Et donc, c'est une raison de plus pour se replonger, continuer de se replonger dans cet événement, notamment du coup à travers votre ouvrage, donc 1968, De grand soir en petit matin, paru aux éditions du Seuil en 2018. Et donc, on espère que nos auditeurs et nos auditrices qui auront survécu jusqu'au bout de cette longue et passionnante émission l'auront apprécié et que il et elle y trouveront des registres pour penser l'actualité et pour militer et pour aussi viser un horizon émancipateur tel que celui que 68 avait ouvert. Donc merci Ludivine Ventoux.
Merci beaucoup.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.